Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à tous, vous êtes sur Mon Paris FM pour l'émission spéciale Au goût du foot présentée par Eladji Makalou. Avec moi ce soir, on a des supporters et beaucoup de consultants. Ibrahima, comment ça va Ibrahima ?
Salut Eladji, bonsoir à tous.
Bonsoir, et toi, comment ça va ?
Bonsoir Eladji, ouais bah on est là, les nerfs ils sont tendus comme dirait l'autre.
Ah oui, les nerfs ils sont tendus en tout cas ce soir, tous, mais ça va gagner. Ouais. Alfred !
Bonsoir Eladji.
Bonsoir, comment ça va ?
Je vais très bien.
Je te sens très détendu toi, il n'y a pas de pression ce soir.
Non, il n'y a pas de pression.
Shenkenza, toi un peu plus hein.
Ouais, ça va, ça va.
Ça va, ça va. C'est un petit ça va. D'habitude.
Ça va, en tout cas, ça va. On est là. Là, je suis en tant que consultant, je suis pas supporter là.
Ok. Pour cette 34e édition ce soir, nous allons revenir sur les matchs d'aujourd'hui. Et on a pu voir, hein, aujourd'hui, il y a eu Cap-Vert contre la Mauritanie. Et on a pu voir que les Cap-Vert se sont imposés 1-0 avec un petit but à 3 minutes de la fin. Et on pourra débriefer là-dessus. Et en attendant, on aura le match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Un match qui va jouer au bout du bout pour ces huitièmes de finale. Un vrai choc, une vraie affiche. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que pour l'instant, c'est l'une des plus belles affiches, si ce n'est la plus belle affiche qu'on, a eue jusqu'ici. Qu'est-ce que t'en penses, Alfred ?
Par rapport au match de la Côte d'Ivoire contre le Sénégal ?
Oui.
Bah, je ne partage pas tout à fait ton avis. Le fait de dire que c'est la plus belle affiche, non. C'est-à-dire que si on veut tenir compte, ma foi, du statut du Sénégal, il n'y a rien à dire. Mais la Côte d'Ivoire, elle a été repêchée par chance, d'accord ? Donc la Côte d'Ivoire, oui, c'est vrai que les gens, parce que le pays organisateur va mobiliser les gens, les supporters et tout. Mais bon, les Ivoiriens savent que d'entre deux, ce match-là, c'est plié pour eux, ils ne pourront pas gagner. Mais bon, comme je dis, le football, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Donc pour moi, le Sénégal devrait sortir vainqueur de cette confrontation.
Ok, d'accord, bon. Toi, je te sens très sûr. Hein. Depuis hier, tu es sur les mêmes acquis. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas changé. D'accord. Mais en tout cas, on va revenir sur pas mal de choses, notamment la Ligue 1, sur le retour des performances de ce week-end. Paris, Marseille, tenu en échec par Brest. Et Monaco-Lyon continue à s'enfoncer. Rennes reprend du poil de la bête. Et attention aussi, il y aura quel choix pour quel résultat. Xavi a annoncé son départ du FC Barcelone à la fin de la saison. Coach espagnol, fait-il le bon choix ? Qui pour lui succéder ? On verra tout ça dans le sommaire un peu plus tard. Pour l'instant, on va débriefer sur le match du Cap-Vert face à la Mauritanie. Dis-nous, Cheikh Kenza, qu'est-ce que tu as pensé de ce match ?
Bon, je pense que l'équipe de Mauritanie, ils ont bien joué. À part une erreur vraiment défensive, ils étaient dans le match. Ils ont bien servi les consignes du coach. Moi, par contre, j'ai été impressionné par le niveau du jeu du Cap-Vert. C'est-à-dire l'équipe est sur la même lancée. Parce que par moment, dans les grandes compétitions, on a des équipes vraiment qui font une bonne première partie de compétition. Ensuite, la seconde partie, on a des joueurs vraiment qui ne sont pas trop là-dedans. Mais le Cap-Vert, j'ai vu que j'ai une équipe qui a toujours gardé son jeu et tout ça. Même si la Mauritanie était bien en place. Hormis l'erreur, je pense qu'on allait partir pour les prolongations. Donc, ça a été un bon match, comme on dit. Mais le Cap-Vert, ils ont montré vraiment plus d'envie. Ils ont fini par remporter.
D'accord. Et toi, Ibrahima, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Bah moi, déjà, j'ai été surpris par le niveau de jeu de ce match, tout simplement, des deux équipes. Je ne pensais pas que la Mauritanie était capable d'élever le niveau comme ça à ce stade-là de la compétition par rapport à ce qu'ils avaient montré au début des phases de poule. Maintenant, après, c'est vrai que c'est triste pour les Mauritaniens parce que, sincèrement, le match était assez disputé et ça aurait pu se terminer. La Mauritanie aurait pu gagner comme le Cap-Vert aurait pu gagner et il n'y aurait pas eu de scandale. C'était très disputé entre les deux équipes, sincèrement. Après, malheureusement, bon, le gardien, une mauvaise remise de la tête, il est un peu court, il fait faute, pénalty.
Fallait bien. Pour toi, c'est le gardien qui est fautif sur cette action ?
Sur la remise de la tête, il n'y a pas assez d'impact du défenseur. Enfin, on sent qu'il touche la balle sans vraiment la toucher. Le gardien, il est un peu court. Bon, je ne sais pas si on peut réellement accuser quelqu'un sur ce genre de fait de jeu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Cap-Verdiens ont saisi l'occasion. Ils ont marqué ce pénalty. Aujourd'hui, ils sont en quart de finale. Et franchement, c'est mérité.
Ok. Moi, franchement, En tout cas, en vue de l'action, j'aurais plus accusé le défenseur. Chez Kenza, toi qui es défenseur, tu vois la tête, la remise qu'il a faite envers le gardien. La remise n'est pas bonne. Oui. Le gardien est obligé de sortir au plus vite pour essayer de réduire l'espace qu'il y a entre lui et l'attaquant. Et là, l'attaquant, il joue super bien le coup, mais le gardien n'a pas d'autre choix que de sortir. Il ne peut pas rester sur sa ligne. Et il reste sur sa ligne. Moi, je pense que c'est un but aussi qui va dans la foulée. Il est obligé de sortir et tenter de toucher le ballon avant de toucher le joueur. Et franchement, je pense que la remise de la tête n'a pas été bonne. Dis-nous, toi, qu'est-ce que tu aurais fait dans cette situation?
Bon, dans ce genre de situation, on nous dit dans les écoles de foot, quand tu fais ce genre de geste, il faut être sûr. Parce que si tu le rates, déjà, tu mets ton équipe en danger. Il y a deux choix. Soit vraiment, vu vraiment le truc, soit il pouvait maîtriser le ballon, soit peut-être amortir le ballon, soit s'orienter, ou soit jouer le ballon latéralement. C'est-à-dire, soit le dégager. Il y a deux solutions. Parce que là il a, le défenseur, pour lui, il a joué intelligemment. Mais il n'est pas, c'est-à-dire, l'action n'est pas bien menée. Parce que c'est une tête. Il se doit de mettre l'impact pour mettre le gardien plutôt dans les meilleures conditions. Parce que oui, il a vraiment, c'était pas une action aussi dangereuse que ça. À un moment donné, oui, il pouvait le faire. Et mais vu que vraiment le geste n'est pas assuré, l'attaquant qui est plein de malice, il suit le geste. Il a vu vraiment que le gardien, déjà, le temps que le gardien arrive, donc du coup, après le gardien aussi, vraiment, je pense qu'on ne peut pas accuser vraiment le gardien, le défenseur fautif. Et je sais qu'il aura des regrets, mais ça fait partie du football. À un moment donné, quand on joue un match, on se doit d'être concentré. Je pense qu'il a manqué de concentration. C'est ce qui arrive aussi par moment quand on est un peu dans les fins de match et tout ça.
Il arrivait sous pression, l'attaquant était en train de presser, il était un peu sous pression du coup.
Même si l'attaquant pressait, étant donné que c'est un défenseur, déjà, le défenseur, je pense que le défenseur il avait l'avantage. Si déjà il arrive à jouer le ballon avec de la tête, ce qu'il fait, c'est qu'il a un avantage. Et quand l'avantage est considérable, c'est pourquoi on demande au défenseur d'avoir un sang-froid, c'est-à-dire d'avoir la maîtrise et tout face à certaines situations. C'est ce qui fait la différence entre les bons et les super joueurs. Je t'imagine qu'un joueur comme Sergio Ramos ou tout, il n'aurait pas fait ça. Un Maldini, il n'aurait pas fait ça. Un top défenseur, il n'aurait pas fait ça. Tu t'imagines un Ibou Konaté, il n'aurait pas fait. Donc, ça montre un peu vraiment que le défenseur, il a été très limité. Ça arrive par moment quand on joue 90 minutes, on perd en lucidité. C'est des choses qui arrivent. Je pense que le défenseur, il a perdu en lucidité et il a fait un geste vraiment qui a été vraiment important pour le match. Et ça, c'est le match. Et je pense que vraiment, il pourra revoir, vu qu'il y a les analyses vidéo, il pourra revoir vraiment son erreur. Sans doute qu'il sera grondé dans le vestiaire, mais c'est des faits de jeu.
Tu penses? Bon, c'est des faits de jeu, hein. c'est ce qui arrive. Hein. Franchement, ça pouvait arriver à n'importe qui. Là, franchement, on a vu l'action. Ok, elle est litigieuse. C'est pas une grossière erreur où tout de suite on l'accuse en première chose, quoi. Mais on voit, si tu revois au ralenti, tu vois que la tête n'est pas bonne et que là, le gardien aurait pu essayer de faire quelque chose, mais en première intention, dès que tu vois l'action, t'accuses tout de suite le gardien. Tu te dis pourquoi il sort, pourquoi il touche le défenseur, pourquoi il touche l'attaquant, pardon. Et
c'est la faute du défenseur. Quelqu'un qui connaît le foot, il va jamais accuser le gardien. Parce que là, le défenseur, c'est comme s'il s'est mis en difficulté tout seul. C'est-à-dire déjà que dès l'instant qu'il a un avantage, il se doit de conserver cet avantage.
Je vois ce que tu veux dire. Ok, du coup, on va passer. Alfred, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match-là?
Après cette victoire du Cap-Vert, certes que c'est le pénalty, mais après, il ne faut pas trop, ma foi, sanctionner le défenseur. Pourquoi? Parce que c'est pendant les 90 minutes, on a bien vu que les deux nations se sont données coup par coup. Hein. Il ne faut pas dire que voilà, la Mauritanie, elle est sortie la tête haute. Il faut la féliciter d'abord, parce que face à l'Algérie, elle a démontré qu'elle a monté en puissance. Donc déjà, certes que le Cap-Vert a gagné, mais pour moi, je ne peux pas trop sanctionner, ma foi, le défenseur, ça arrive. C'était vers la fin, il y a l'épuisement, il y a tout ça. Après, le dernier rempart, il a essayé de faire quelque chose. Voilà, bon, maintenant, comme je dis, dans les années à venir, il va falloir compter avec ces nations qu'on a toujours sous-estimées. C'est ça qu'il faut voir aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès dans le football, dans les nations africaines. Celles qu'on n'a pas constituées, celles qu'on n'a pas considérées, celles qu'on a traînées en disant qu'elles ne sont pas bien parce qu'elles vivent ceci, cela. Non, aujourd'hui, on a vu. Donc voilà, pour moi, il faut féliciter la Mauritanie qui monte en puissance. Parce qu'il y a des nations comme le Cameroun qui sont sorties. Voilà, mais pourtant, faites une comparaison. Au niveau classement FIFA, on mettrait la Mauritanie dernière. Mais aujourd'hui, le Cameroun sort, l'Égypte sort. Donc, il va falloir maintenant compter dans les 4 années à venir. La seule chose qu'il faut mettre en place, c'est que les politiques d'aujourd'hui doivent continuer. Il ne faudrait pas que demain, ça change. Pourquoi? Parce que on dira que dans la Mauritanie, ceci, cela. Parce qu'on ne les a pas considérés, mais ils sont arrivés au rendez-vous, ils ont montré de quoi ils sont capables. Donc pour moi, ils vont sortir la tête haute. Il faut dire bravo à la Mauritanie.
Oui, bravo, hein. Ils ont fait un beau parcours, hein. Après ils ont fait avec leurs armes. On a vu en tout cas de très grosses nations sorties dès le début en phase de poule et ça n'a pas été le cas pour eux. Et on sait bien, c'est historique. Hein, c'est
et encore, ces nations-là, elles présentent des entraîneurs nationaux, oui, ce qui a félicité.
Aussi.
Donc voilà.
C'est un courage. Et ça, on y reviendra là-dessus sur les sélectionneurs. Est-ce qu'ils doivent être de la même origine ou pas? Ibrahima,
Concernant le match, pour la Mauritanie, c'est pas vraiment le cas. Il est comorien, le coach de la Mauritanie. Oh, oui, c'est celui qui avait qualifié les Comoriens à la précédente.
C'est vrai que la dernière
fois. C'est un très bon coach d'ailleurs.
La dernière fois, quand on échangeait, je me suis trompé en parlant de Madagascar, mais c'était les îles Comores. Bah, ils ont fait bonne impression la dernière canne.
Hein. Madagascar, c'était l'avant-dernière canne qui sont arrivés en quart de finale.
Le Congo, il me semble, en 8e.
Et les Comores, ils avaient éliminé le Ghana. Mm-hmm. Ils avaient fini 3e.
Ouais, je pense 3e. Leur
groupe, ils étaient qualifiés.
Ils avaient perdu de façon assez litigieuse, même face au Cameroun en
8e finale. Sans gardien de but.
Un arrière-droit dans les cages. On s'en souvient.
Très bien pour ce match-là. On va lancer le 30 secondes chrono. Ça va être parti pour Alfred. On va commencer avec Alfred. C'est quand tu veux, Alfred.
Moi, le fait, c'est surtout la blessure de Kingsley Coman qui va pénaliser le Bayern, plus la sélection nationale française. Donc pour moi, voilà, il sera absent peut-être 2 ou 3 mois. Donc c'est vraiment triste pour le Bayern et pour la fédération française.
Ok, d'accord. Et à revenir là-dessus, je pense qu'on sait tous que ça serait une grosse perte quand même pour le Bayern.
Kingsley Coman, il est assez coutumier du fait quand même. C'est pas la première fois qu'il lui arrive de grosses blessures comme ça.
C'est vrai qu'on
espère qu'il pourra revenir au plus haut niveau parce que ça commence à faire beaucoup pour lui.
C'est vrai que ces derniers temps, on se demandait quand est-ce que la blessure pour Kingsley Coman, même si on ne lui souhaite pas, mais parce qu'on voyait bien que ça faisait un moment qu'il enchaînait et que c'était très difficile pour lui d'enchaîner les saisons sans blessure, sans pépin physique. Et c'est ce qui arrive la plupart à plusieurs footeux, notamment qui vont très très rapide, qui vont très très vite, pardon. Et surtout au niveau des chevilles, au niveau des genoux, c'est un peu plus fragilisé. Et on a pu le voir encore cette fois-ci. On va partir avec toi, Amadou, sur le 30 secondes chrono.
Bah, 30 secondes, bon, je veux dire, ça va être rapide. Hein. C'est pour parler de la débâcle de Barcelone qui a perdu 5-3 face à Villarreal. Je pense que j'ai dû le voler à quelqu'un celle-là parce que là, pour dire que là, ça va plus. De toute façon, il me semble que Xavi a dit qu'il partait à la fin de la saison. Donc on verra bien. Quid de Xavi, comme on dit, peut-être Arteta. On verra bien.
On verra bien. Bon, on avait précisé de ne pas parler du sommaire, de ne pas évoquer le sommaire dans les. Oui, c'était un point du sommaire, mais il n'y a pas de problème. Ibrahima, toi, dis-nous. En tout cas, on va y revenir dessus un peu plus tard. On va laisser un peu la surprise. Et toi, Ibrahima, dis-nous, c'est quoi ton 30 secondes chrono?
Alors, moi, je voulais parler des propos qu'a tenu Jurgen Klopp à propos de son avenir. Comme quoi, il allait quitter le FC Liverpool à la fin de la saison après 8 saisons passées, il me semble. Bah, c'est un entraîneur qui a félicité parce que pour ceux qui se souviennent dans quel état il avait récupéré Liverpool et où aujourd'hui Liverpool est, c'est extraordinaire. Et il faut aussi saluer les dirigeants de Liverpool qui ont continué à maintenir la confiance qu'ils avaient en lui, ce qui se fait plus beaucoup dans le foot et ça a payé. Et encore félicitations à lui et j'espère qu'on le reverra dans un autre grand club d'ici là.
On espère, pile pour le 30 secondes. Qui veut revenir dessus? Cheikh Kenza, Alfred? Bon, je pense que la question est très rapide. Hein. Jurgen Klopp fait partie des meilleurs coachs au monde actuellement. Ouais. Et merci pour les travaux qu'il a effectués à Liverpool, vraiment. Et il a précisé aussi qu'il n'entraînera plus d'équipe en première ligue, en tout cas si ce n'est Liverpool, parce qu'il a tellement un amour inconsidéré pour les supporters, inconditionnel pour les supporters, que... il ne se voit pas en tout cas entraîner une autre équipe en première ligue.
Ouais, à mon avis, pour moi, je pense que c'est la meilleure solution de pouvoir partir parce que, vous savez, le championnat anglais, c'est pas facile. Vous savez, à un certain moment donné, tu as de la cote, ça marche bien, vers la fin, tu es humilié quand il n'y a pas de bons résultats. Donc pour moi, je pense qu'il a un autre projet dans la tête, soit peut-être la sélection à la demande, au cas où ça ne marcherait pas pour la prochaine Ligue des Nations. Si ça ne marche pas, parce que les Allemands ont toujours fait leur préférence aux choix nationaux. Donc je pense que peut-être qu'on pourra lui confier la sélection nationale. Après, il pourrait même retourner en Espagne, ou je ne sais pas. Mais bon, pour moi, je pense qu'il est bon temps qu'il parte. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a remercié. Voilà, donc bravo.
Bravo, je pense que c'est la seule chose qu'on pourrait dire. Et on voit même notamment les places du dernier match de Jürgen Klopp sur le banc de Liverpool. Les places qui sont à des prix vraiment affolants. En moyenne, normalement, on les trouve à 70 euros. Et là, ça monte en moyenne 2300 euros. On peut retrouver des billets jusqu'à 29 000 euros. C'est vraiment incroyable. Et ça commence déjà à être sold out. Les gens achètent les places pour les revendre. C'est un vrai business. Voilà. Mais en tout cas, on souhaite beaucoup de bonheur à Jürgen Klopp et beaucoup de réussite pour la suite. Chez Kenza pour les 30 secondes, c'est parti.
Bon, moi, mon 30 secondes chrono, c'est l'arbitrage de la CAN. Ça fait pas partie du sommaire, mais je constate que vraiment l'arbitrage de la CAN, il est impeccable. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est un fait que j'ai remarqué depuis le début de cette compétition. Il y avait pas mal de choses auparavant concernant l'arbitrage et tout ça. Je constate que l'arbitrage, il est bien. Bon, c'est mon 30 secondes chrono.
D'accord, merci chez Kenza pour ce 30 secondes.
En attendant ce soir.
Je pense que l'arbitrage de la CAN, c'est un mythe un petit peu quand même, parce que je vois plus de situations litigieuses dans des matchs de Ligue des Champions, d'Euro ou de Coupe du Monde qu'à la CAN, hein, sincèrement. Ou même en Ligue 1 tous les week-ends. Donc je sais pas d'où ça sort ce mythe de l'arbitrage un peu douteux sur le continent africain, j'ai jamais compris. Parce que sincèrement, tous les week-ends, il suffit de regarder quelconque championnat européen pour voir que situations litigieuses, il y en a partout, quoi.
C'est vrai que l'erreur est humaine et qu'il y a des erreurs un peu partout.
Après, c'est vrai que j'allais dire souvent aussi, peut-être on a dit ça parce qu'il y a déjà eu des arbitrages maison, comme on a dit. Bon, dans des anciennes CAN, Tunisie peut-être en 2004 un peu, l'Égypte en 2006 aussi, il y a eu des moments litigieux. Et encore, peut-être pour les plus anciens, ils doivent en connaître aussi peut-être d'autres. Je ne sais pas, le Thierry 90 peut-être. Enfin, je pense que c'est aussi par rapport à ça.
Ce sont les Africains ont obligation à progresser, sinon ça ne sert à rien d'être dans le football. Donc, pour moi, oui, parce que juste pour une petite cachoterie, là, vous êtes sanctionné. Donc, vous ne reviendrez plus dans le football. Donc, je pense que il marque, c'est pas du progrès. Donc, il faut continuer comme ça, parce que on ne peut plus. Parce que si on doit continuer avec les triches ou soit peut-être mal sifflé, on ne peut pas aller au sommet, voire aller au mondial. Donc, quoi. Donc on n'aura pas besoin d'eux là-bas parce qu'ils n'auront pas le niveau. Donc je pense que peut-être, et j'y suis pas, peut-être que la CAF insiste beaucoup sur la formation, voire avec la VAR qui est arrivée et tout. Donc je pense que t'es vu. Donc tu sors de là, t'as la note que tu vas avoir, tu reviendras plus sur le terrain.
Oui, ils sont beaucoup plus exigeants maintenant. Beaucoup d'exigences. Et moins tolérants aussi par rapport aux fautes. On voit bien, dès qu'il y a une petite erreur d'arbitrage, l'arbitre est sanctionné directement derrière, alors qu'avant, c'était beaucoup plus rare. En tout cas, il fallait vraiment des très grosses fautes, très litigieuses, ou jusqu'à ce que la justice en prenait directement, prenait la main dessus. Mais là, maintenant, c'est vrai qu'on leur laisse moins de marge. Mais après, c'est vrai qu'on est beaucoup plus au point technologiquement. On va attaquer le point de la question ABDF. Samuel Eto'o est-il prêt ? Est-il le premier responsable de l'élimination du Cameroun ? Alfred ?
Moi, personnellement, non. C'est-à-dire que Samuel Eto'o avait l'envie de servir son pays. Il est arrivé. Maintenant, pour s'imposer, ça prend du temps. Donc, pour moi, l'équipe camerounaise, elle est vieillissante. Il va falloir la reformer, reformer même en profondeur, essayer de préparer des jeunes. Donc pour moi, oui, dans la vie, pour gagner, on passe par les échecs. Donc à partir de ces échecs, on apprend. Donc pour moi, après, je suis le Camerounais, je reste Camerounais. Il y a le côté un peu vantard. Donc et encore, je dis une chose, je ne suis pas contre la personne, mais vous savez, on n'est pas à l'armée. Donc quand vous parlez souvent aux gens, même quand vous managez, il va falloir baisser un peu de ton. Il ne faut pas arriver avec l'esprit un peu autoritaire. Je veux bien comprendre que son exemple est synonyme de modèle, mais tout le monde ne peut pas être Eto'o. Donc il faut savoir avoir une politique, je ne sais pas comment on dit, mais peut-être les mots me manquent, mais il va falloir convaincre les gens avec un peu de pédagogie, pour que les gens ils adhèrent à vos idées, pour que ça puisse avancer. Ils sont tous professionnels, et le Camerounais, c'est quand je gagne le même billet que toi, ou à peu près le même billet que toi, je veux bien écouter. C'est ça qui est le comportement de Onana vis-à-vis d'eux. Donc c'est un peu ça. Donc je pense que peut-être, à titre personnel, peut-être il va revenir sur lui-même pour essayer de, je ne sais pas s'il a des conseillers autour de lui, voir ce qui n'a pas marché, ce qui pourrait marcher pour le futur. Pour moi, c'est ça. Mais le Cameroun doit comprendre qu'aujourd'hui, ils doivent changer. Et encore, dans la construction même du football, essayer d'aller voir un peu ailleurs par rapport aux autres pays africains qui pratiquent quelque chose de bien, comme par exemple ce que le Sénégal a fait aujourd'hui, comme ce que la Mauritanie a fait aujourd'hui. Parce que quand on regarde bien de tout ce que le Cameroun a proposé pendant cette période, c'est que juste que du physique, c'est-à-dire que c'est dur sur les artères, mais voilà, ça compte sur rien. Voilà, donc, voilà. Vous étiez Toko Ekambi, bon, qu'est-ce qu'on a vu? Bon, pour moi, voilà, donc pour moi, je pense qu'il faut penser aussi à autre chose, voilà.
Est-ce que le problème aussi, ça n'est pas la proximité qu'il y a entre Eto et Song? Parce que, est-ce que Song était vraiment l'homme de la situation? C'est à ce point-là que je pense que les Camerounais peuvent en vouloir à Samuel Eto, parce que vraiment, en tant que joueur dans sa carrière, personne ne peut lui en vouloir avec tout ce qu'il a accompli. Mais en tant que président de la FECAFOOT, Song, est-ce que Song était la bonne personne? En tout cas, est-ce que c'était la bonne personne qu'il nous fallait, Ibrahim?
Bah, il n'y a qu'à voir les résultats de Rigobert Song. Juste avant qu'ils prennent la sélection A du Cameroun, ils étaient tout simplement pas bons. Que ce soit avec l'équipe du Chan ou les moins de 17, il me semble, il n'avait pas de bons résultats. Après, je pense que si Samuel Eto'o a choisi Rigobert Song, c'est pour pouvoir, lui, maintenant, entraîner l'équipe, en fait, tout simplement. Parce que j'ai vu récemment qu'apparemment, c'était lui qui dirigeait les séances vidéo de l'équipe. On voit qu'il est très présent, il est très proche des joueurs, il parle énormément avec eux. Donc, officieusement, le coach de l'équipe du Cameroun, ce serait peut-être Samuel Eto'o. La seule chose qu'on peut lui reprocher à Samuel Eto'o, c'est peut-être de vouloir tout contrôler et de ne pas mettre un coach qui pourrait
gérer la situation.
Gérer la situation et tout simplement qui prendrait beaucoup d'espace, qui mettrait quelque chose en place de solide et qui pourrait emmener le Cameroun le plus loin possible comme il était il y a quelques années. Après aussi, le souci du Cameroun, c'est surtout les joueurs. Aujourd'hui, le Cameroun ne produit plus de joueurs. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu l'effectif camerounais, mais il n'y a plus énormément de joueurs de talent.
Je partage ton avis.
Il n'y a plus énormément de joueurs de talent. C'est peut-être Toko Ekambi qui n'est pas mauvais, Nkoudou. Enfin, il était très prometteur aujourd'hui, il joue en Arabie Saoudite.
On peut penser aussi à des joueurs qui n'ont pas été appelés comme Choupo-Moting. Hein,
oui,
ça aurait beaucoup pesé aussi.
Et il y a des énigmes
dans la
aussi
balance
dans cette équipe comme Nathan Douala. Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce joueur.
Danseur,
d'ailleurs, je ne sais pas. Ouais. Mais y a beaucoup de choses bizarres dans cette sélection et il va falloir se poser les bonnes questions à un moment ou à l'autre.
Moi, de loin, quand vous regardez les Camerounais, j'ai l'impression qu'il peut avoir un problème d'ego. Chacun veut faire quelque chose parce qu'il a été professionnel. Parce que même au niveau même parfois de je sais pas comme du staff, celui qui a joué à Chelsea là, qui était parti en Amérique latine là, je sais pas comme le milieu de terrain, voilà tout cela, il veut briguer des postes, mais briguer des postes,
Mboma aussi,
voilà,
c'est pas mal présent.
Voilà, donc tout ça, briguer des postes, c'est vrai, mais va falloir faire des formations, prouver de quoi on est capable. Même Rigobertson, le fait d'être nommé entraîneur, ben, oui, il faut avoir de l'autorité. Voilà, c'est moi qui entraîne, c'est moi qui mets les idées. On collabore ensemble, mais si t'as pas l'aura, si t'as pas le dicton, si t'as pas la politique de pouvoir diriger, voilà, Eto'o va s'imposer. Et c'est ça qui fait ça. Donc pour moi, c'est un peu.
Et ce qui est ambigu aussi, c'est que c'est Eto'o qui choisit le coach.
Oui, après moi, je pense qu'avec n'importe quel coach.
Il y a un conflit d'intérêt, il y a quelque chose de bizarre dans tout ça.
Et après moi, je pense qu'avec n'importe quel coach, il aurait pu avoir la main dessus, hein, autant qu'avec avec Song. Avec un autre coach.
Je suis pas
coach,
sûr que n'importe quel coach accepte d'avoir Samuel Eto'o juste au-dessus.
Je pense que
le problème,
à partir du moment où il accepte de venir entraîner la sélection,
ah oui, il faut qu'il fasse avec.
Je pense qu'il sait déjà qu'il va devoir faire avec, parce que je pense qu'Eto'o a toujours été clair. On voit lors de ses sorties médiatiques, il est très cash, il est très transparent. Il dit ce qu'il pense haut et fort, et malgré qu'il soit proche de Song, il le dit clairement. Si vous ne faites pas le boulot, je vous vire. Tu vois,
voilà. Eto'o aussi, c'est quelqu'un de charismatique. Et là, le problème, moi, je pense que le problème du Cameroun, là, cette Song, c'est pas l'homme de la situation, mais je pense que le Cameroun n'a plus ces talents qu'ils avaient. Comme Alfred l'a dit tout à l'heure, le Cameroun, c'est tellement physique, au fait, ça produit plus du jeu. Et là, ça n'a pas débuté maintenant. Même à la CAN 2017, le Cameroun gagne, mais ils n'ont pas été impressionnants.
C'est vrai, ça.
Donc, depuis un certain temps, l'école de la brasserie qui produisait tous ces talents qu'on a eus, comme Eto'o, Njitap, comme Song et tout ça, mais à un moment donné, il va falloir reformuler le système. Le problème, c'est pas Song. Même la pression, le Cameroun va continuer toujours à nous donner une mauvaise image. À un moment donné, il faut réformer. Et il faut déjà qu'ils apprennent de leurs erreurs. Parce qu'on a, comme l'impression que, comme il a dit, c'est des gens qui sont un peu tellement fiers et tout. Ils ont toujours, ils se disent que oui, c'est le Cameroun, comme ils disent le continent. Non, à un moment donné. Là, le football a tellement évolué qu'il va falloir, le voir chez les voisins et apprendre et essayer de s'améliorer. Et tant qu'ils vont rester dans cette spirale, je pense que le Cameroun ne va faire que décliner. Parce c'est que là déjà, c'est un
déclin. J'ai très peur qu'ils se retrouvent déclassés plus bas encore. Je rappelle quand même qu'ils ont eu du mal à se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations.
Mais déjà, ils se qualifient vraiment à la dernière minute. Ce qui vraiment n'est pas honorable pour un pays. Vraiment, à la Coupe du Monde, là, ils se qualifient vraiment, c'est un fait de jeu.
C'est le même problème pour une équipe comme le Ghana, par exemple, aussi. Je pense que c'est les mêmes soucis que le Cameroun.
Les Camerounais n'arrivent pas à dire la vérité aux gens. Bon, je vous explique, il y a un fossé qui est creusé. pourquoi je dis ça, la génération de Bel-Antoine, tous ceux qui sont venus avant les Eto'o, c'est des gens qui ont joué, c'est vrai, à l'international, mais ils n'ont rien fait. On n'a pas vu de préparation, de reconversion. Je vous prends un exemple comme Roger Milla. Je vous dis de façon honnête, il n'aurait pas eu l'appui de Ludic Collin. Milla, il n'a rien. Rien réalisé. Voilà, et puis il se débrouille un peu comme ça. C'est surtout, ils viennent, je ne sais pas comment on dit, le mot serait un peu fort, pardonnez-moi, essayer de racketter un peu les taux pour avoir un peu quelque chose, parce qu'ils n'ont rien dans le football.
Ah oui, carrément, Alfred.
Je vous dis de façon honnête. Après, Eto'o, ils s'imposent. Mais eux, qui devaient servir d'exemple, par exemple, à ma foi, apporter leur expérience ou leur contribution pour faire avancer la nation camerounaise, ils sont inactifs. Donc Eto'o, ils s'imposent comme le héros. Mais attends, mais Zoro, c'est pas partout. Hein. Donc quelque part, ça devient un peu compliqué. Eto'o, je l'aime bien. Mais c'est surtout le côté impératif que moi, je supporte pas dans le football. On n'est pas à l'armée. Quand vous parlez aux jeunes, ils sont de la même génération que vous. Parce que quand les jeunes, ils sortent de là, quand ils vont dans les vestiaires, ils savent ce qu'ils se disent. C'est ça qui est là le problème. Donc pour moi, il faut dialoguer avec eux, voir. Parce que même, voir par exemple Onana venu avec son jet privé, il n'a pas été classé le premier jour. Voilà, il respecte. Hein, on le remet. Voilà, tu sais.
Il s'en va avec le jet privé, avec voilà. Le sourire aux lèvres. Enfin, on a vu une petite photo. Oui, d'ailleurs, il n'avait pas de crème sur les chevilles, mais, voilà, mais il partait en tout cas sourire aux lèvres, retourner à Manchester. On est branché aussi sur le match de ce soir entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous allons le commenter tout au long de cette émission. Et est-ce que, Ibrahima, tu peux nous donner les compositions du match qui va commencer dans quelques secondes?
On va commencer par la composition du pays hôte, la Côte d'Ivoire. Alors, énormément de changements dans l'équipe. Yaya Fofana dans les cages, défenseur gauche Ghislain Konan, dans l'axe Ndika et Kossounou qui jouent ses premières minutes avec la sélection dans cette compétition. Le capitaine Serge Aurier est là côté droit. Au milieu de terrain, on va aller avec un milieu à 3, Sekou Fofana, Jean-Michel Seyri en point de basse et Ibrahim Sangaré. Et pour l'attaque ivoirienne, on aura Max Alain Gradel qui jouera ses premières minutes en sélection ivoirienne durant cette compétition. Jean-Philippe Krasso à la pointe de l'attaque et Oumar Diakité côté droit. En ce qui concerne le champion en titre, l'équipe du Sénégal, on a Edouard Mendy dans les cages, une défense à 3 avec Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo et Moussa Niakate. Au milieu de terrain, Lamine Camara, Papsar, Crépin Diata côté gauche, Ismaël Jacobs côté droit. Pour les trois de devant, Ismaïl Assar, Sadio Mané et Habib Diallo à la pointe de l'attaque sénégalaise.
Je pense qu'on peut déjà parler des compositions, hein, Alfred ou Cheikh Kenza. Dis-nous, qu'est-ce que tu penses des compositions, les choix forts du nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire par intérim, qui choisit de mettre Seri au milieu de terrain et qui met Kessié sur le banc. Et à gauche, Max Alain Gradel, qui a joué que 8 minutes depuis le début de la compétition. Est-ce que c'est judicieux de le mettre titulaire dans ce genre de rencontre?
Oui, moi je pense que déjà c'est judicieux. Je pense que l'entraîneur, déjà, il veut lancer un message pour dire qu'il y a un groupe qui est là, un groupe cohérent, c'est-à-dire un groupe dans lequel chacun a les mêmes chances. Parce qu'avec Gassé, on avait un peu ce problème-là. Il avait déjà 11 types. Pourtant, dans ce genre de compétition, à un moment donné, il va falloir changer. Quand on met des titulaires habituels que ça ne va pas, ben, il faut essayer d'autres astuces. Parce que le football, c'est comme ça. On ne va pas tout en jouer avec le même 11 si ça n'avance pas. Il faut faire des choix forts. Il faut avoir aussi de l'audace. Déjà, moi, je pense qu'il a bien débuté. MS Faye, parce que je ne connais pas trop son bilan en tant qu'entraîneur, mais il a fait pas mal de bonnes choses avec la sélection de U23, parce qu'il était sur le projet, ça fait maintenant pas mal de temps qu'il y est. Mais le petit problème que moi j'ai à décrire, c'est la titularisation de Ibrahim Sangaré. Depuis le début de la compétition, on a trouvé un Ibrahim Sangaré qui n'est pas en état de forme, qui ne donne même pas 10% de son jeu. Ibrahim Sangaré, c'est un gros volume de jeu. Oui. On l'a même vu avec Toulouse, on l'a même vu avec le PSG, avec Nottingham. C'est quelqu'un qui est très important dans le système de jeu de son équipe. Mais depuis le début de la CAN, on a un Ibrahim Sangaré qui n'est pas là-dedans, qui n'est même pas en dessous, qui n'est pas là-dedans, qui ne doit même pas prétendre être titulaire. À un moment donné, il ne faut pas qu'on se voit la face.
Il ne peut pas prétendre être titulaire, d'après toi. Du coup, tu mettrais qui à la place de Ibrahim Sangaré quand même?
Moi déjà, je serais parti sur un 4-3-3. Avec la défense qu'il a fait, j'aurais mis Yaya Fofana dans les cages. À droite, moi, j'aurais pas mis Aurier. Ça, c'est mon choix. J'aurais déjà mis un Wilfried Tsengo parce que je pense qu'il est mieux qu'Aurier. Il ne peut pas être fautif vraiment de la débâcle qu'on reçoit. C'est toute l'équipe. On ne peut pas vraiment lui faire porter le chapeau.
Après, Aurier est un homme d'expérience. Hein. Là, oui, je pense qu'il a, il a préféré l'expérience. On a vu, il a ressorti, la vieille tunique et il a ressorti aussi les anciens du placard, tu vois, comme Alexandre, comme Max Gradel. Et il remet Serge Aurier là. C'est, moi, je pense qu'il veut, dire que ces joueurs-là ne sont pas venus ici juste en vacances, quoi. Je pense qu'il veut, montrer qu'ils sont là pour jouer, pour faire quelque chose.
Je pense qu'il veut essayer de concerner tout le monde, quoi. Il veut dire que voilà, on repart de l'avant. Et voilà quoi. Là, il prend l'expérience de Gradel parce que bon, Gradel, là, je sais pas combien il a de sélections en Côte d'Ivoire, mais ça fait un moment quand même qu'il est là. Donc, qui dit est-ce que peut-être ça sera pas sa dernière CAN. Donc, je pense que voilà, il veut jeter les dernières forces vives, comme on va dire. Bon, il y a, ils ont quand même un effectif, hein, il y a quand même des bons joueurs dans cet effectif.
Ok. Mais, Et toi, Fred, qu'est-ce que tu penses de...
la pensée, elle est là dans vos déclarations, mais le problème, c'est que c'est le départ qu'il fallait voir ça. Quand on vient pour une compétition comme la CAN, on la prépare, on sait ce que les joueurs qu'on doit mettre au départ pour pouvoir avancer. D'accord ? Bon, quand on laisse certains qui ont les acquis, qui ont de l'expérience.
Premier voilà, but. C'est... Le premier but voilà. Pour le Sénégal.
1-0 pour le Sénégal à l'Euro, on se parle.
Le but voilà. Du Sénégal. Voilà. 1-0 pour le Sénégal, voilà. Pour les RECs, voilà, sur la terre des Ivoiriens. Et voilà, c'est déjà la fête hein, au bout de 4 minutes, c'est déjà la fête au Sénégal, en Côte d'Ivoire, pardon. Et voilà, les Sénégalais sur un but de, je n'ai pas vu...
C'est pas Lamine Camara,
non ? Il me semble que c'est Habib Diallo.
Habib Diallo, attendez, on va vous le dire tout de suite.
C'est Habib Diallo, c'est ça.
Eh ben, c'est Habib Diallo. Okay. Habib Diallo pour le premier but du Sénégal. Tout de suite, hein, le Sénégal, on les a vus dès le début. Hein, mettre la pression sur les défenseurs ivoiriens. Et on revoit ce but. Hein, avec Sadio Mané, la balle qui ne sort pas. Un centre magnifique de Sadio Mané. Un contrôle poitrine et une frappe dans la lucarne. C'était vraiment... Ah non, là, c'est incroyable. Hein. Quel but. Vraiment très, très joli. Hein. Sadio Mané qui est laissé par la défense. Habib Diallo qui se joue de la défense et qui met une très belle frappe dans la lucarne qui ne laisse aucune chance à Fofana. Fana et 1-0 pour le Sénégal, c'est déjà parti. Ibrahima, ça vous laisse sans voix. Hein, on voit bien.
Vraiment,
ça nous laisse sans voix.
La fin de Sadio Mané, le défenseur qui est resté à toi, il pensait qu'il y avait touche.
Ils sont tout le temps surpris. Ouais. Ils regardent jouer. Donc,
on attendait un sursaut d'orgueil, mais on sent un manque de concentration assez flagrant du côté ivoirien.
Et il faudrait pas qu'ils sombrent.
Mais
là, on l'a vu.
C'est de ça que je parlais tout à l'heure. J'ai peur pour eux, sincèrement.
C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Et Serge Aurier, déjà en entame de match, ça se passe sur son côté. Il n'est pas du tout concentré. Le plus souvent, c'est à la fin du match qu'on perd la lucidité. Si on entame de match, ça montre vraiment que l'équipe de Côte d'Ivoire, peut-être, n'eût été un miracle, mais n'a pas vraiment les moyens vraiment pour aller chercher ce sac continental qu'on attend depuis 2015.
Et encore, on se doit le Sénégal. Le Sénégal n'est pas monté en puissance. Hein. C'est juste un début.
Où je dis que je suis assez inquiet pour cette équipe qui peut... Prendre une valise à domicile.
Donc c'est après que ça va chauffer, quoi.
Bon, là, on ne le sait pas déjà parce que c'est au football. Déjà, c'est au football. Mais est-ce que vraiment les Ivoiriens montent en entame de match ? On voit vraiment qu'il y aura du travail à faire. Et par moments, c'est comme ça. Par moments, c'est comme ça. Même quand on est une grande nation, on a des moments vraiment où on n'est pas là, on n'est pas présent. Toutes les grandes nations ont eu dans le football, comme le Brésil en ce moment qui n'est pas du tout présent et ça arrive. Je pense que là, il faudrait qu'ils préparent vraiment d'autres perspectives, d'autres échéances comme la CAN 2025 et autres.
Bon, cela dit, c'est pas fini. Hein. Il reste encore du temps.
Oui, il reste du temps.
Le match vient tout juste de commencer.
Oui, il reste du temps.
On ne peut pas les condamner.
Très mauvaise entame des
Ivoiriens. Mais déjà, l'attitude, vraiment, l'attitude, moi, je pense que l'attitude, je sais pas, mais c'est des signes annonciateurs.
Depuis ce début de CAN, dès que les Ivoiriens ont été menés, ça a été très dur pour eux de revenir. Mentalement, on a vu, on les a vu baisser les bras. On espère que ce soir, ça ne sera pas la même chose pour les Ivoiriens, mais ça s'annonce très mal hein, parce qu'on voit les Sénégalais qui continuent de pousser. Hein,
À l'image d'un Sadio Mané.
Qui est très en France et qui est en confiance.
Qui a l'habitude des grandes
rencontres. En fait, le problème, moi je pense que le problème, c'est la confiance. Au football, vraiment, quand on n'est pas en confiance, rien ne nous réussit.
Bien sûr.
Oui, et étant donné que c'est des professionnels. Tu sais vraiment que là, ils ont le moral un peu sapé, ils ont été un peu atteints un peu dans leur orgueil, même s'ils ne le demandent pas, mais ils se doivent d'être forts parce que oui, c'est des athlètes. Mais à un moment donné, quand on n'est pas prêt psychologiquement, on ne peut pas jouer ce genre de rencontre. Parce que oui, on se doit vraiment d'avoir confiance, quoi qu'il arrive dans tout ce qu'on fait. Et la confiance, vraiment, c'est une arme vraiment destructrice. Ça nous permet vraiment de, je sais pas, d'anéantir l'adversaire et tout. Et aussi d'être confiant, de bomber un peu le torse. Mais là, on a des Ivoiriens vraiment qui jouent tête baissée, quoi. Oui.
On va rebondir là-dessus, justement, sur les équipes qui nous font la plus grande impression, en tout cas dans ces 8e et dans cette CAN, dans cette 34e édition de la CAN qui se déroule en Côte d'Ivoire. Alfred, dis-nous l'équipe qui te fait le plus d'impression jusqu'ici.
Les nations qui sont qualifiées ont montré qu'elles étaient présentes. Elles sont arrivées avec de la motivation, de la détermination, l'envie d'aller loin. Donc pour moi, aujourd'hui, le parcours de l'Angola, le parcours de la RDC est à saluer. Donc, les autres ne sont pas encore entrés. L'Égypte est sortie, le Cameroun, c'est fini. Voilà le Cap-Vert qui apparaît. Donc voilà, Donc, vers la fin, vous verrez qu'il y aura des surprises. Parce que voir la RDC tenir face à l'Égypte, sur tous les compartiments. Hein. Donc pour moi, voilà, faut plus négliger les nations. Moi, j'ai toujours dit que c'est ça qu'il faut. Lorsque vous produisez quelque chose, lorsque vous vous battez, la finalité, c'est d'être récompensé. Et c'est la victoire finale qui compte.
C'est ça. Et du coup, Amadou, toi, dis-nous, quelle équipe t'a fait la plus grande impression jusqu'ici ?
Bon, j'aurais dit le Cap-Vert, pour tout ce qu'on a dit les autres fois. La technicité, le fait qu'ils ont beaucoup de jus. Bon, après, ça va être facile, mais je vais dire aussi le Sénégal qui m'a impressionné par rapport à, comment on appelle ça, sa sérénité sur le terrain, en fait. Pour l'instant, je vois que là, ça tient bien. Bon. Après, jusqu'à quand, on va voir.
D'accord. Donc, pour toi, ça serait plus les requins blancs quoi, qui t'ont fait la plus grande impression jusqu'ici.
Aussi.
Attention, ce tacle de Sadio Mané,
au-dessus
de la cheville, ça peut être revu par la VAR, ça peut être un rouge.
Je pense que là, je pense que l'arbitre là, il était un peu indigent.
Je pense qu'ils vont consulter la VAR. Je pense que si le joueur, est-ce que le joueur s'est relevé? Non, je pense pas qu'il s'est relevé. Je pense qu'on est en train de la regarder encore.
Ça pourrait changer le cours du match.
Le ballon n'est pas rouge. Oui. Ah non, le ballon n'était pas sorti.
Un beau contrôle d'Habib Diallo, déjà, de la poitrine qui s'oriente devant. Et il n'a vraiment qui n'a plus qu'à mettre une frappe limpide. Et là, ce n'est pas de la faute du gardien parce qu'il est barré par des défenseurs déjà qui ne font pas action de jeu, qui ne viennent pas déjà contrer la frappe ou essayer de réduire le champ des tirs. Et ça montre un peu qu'ils ne sont pas concentrés. Je ne sais pas vraiment. Ils travaillent quoi vraiment aux entraînements, mais après, c'est le football.
C'est ça. Bon, en attendant, Ibrahim, tu peux nous dire l'équipe qui t'a donné la plus grande impression jusqu'ici dans cette 34e édition ?
Pour l'instant, moi, c'est l'équipe d'Angola parce qu'ils avaient très mal débuté face à l'Algérie. J'étais vraiment pas satisfait du match qu'ils avaient fait face au Fennec. Mais ce qu'ils ont proposé par la suite, c'est assez impressionnant, notamment avec des joueurs qui partaient pas titulaires, notamment Mabouloulou, l'attaquant angolais qui a mis un super but face à la Namibie, et on voit cette équipe angolaise montrer vraiment de belles choses avec un beau jeu plutôt simple, beaucoup en équipe, très peu de ballons en l'air envoyés comme ça vers l'attaquant. On essaie de construire ses attaques, ça va vite vers l'avant et surtout devant l'attaque et devant les cages. Surtout, on a une certaine efficacité qu'on n'a pas dans beaucoup d'équipes aussi dans cette CAN, notamment hier, on l'a vu hier soir entre le Congo et l'Égypte. L'efficacité qu'il y a dans cette équipe angolaise, on la retrouve pas partout. Et je voulais notamment saluer les performances de Gelson Dalla, un joueur que je ne connaissais pas, qui me surprend pas mal et qui fait de très bonnes performances pour l'instant.
D'accord, merci Ibrahima. Et toi Alfred, l'équipe qui t'a... Sheikh Kenza, oui. L'équipe qui t'a donné la plus grande impression jusqu'ici.
Moi c'est le Sénégal. Déjà en début de cette émission de CAN et tout, au bout du foot spécial CAN, j'avais dit que le Sénégal, oui déjà, c'était une équipe vraiment qui montrait vraiment de belles qualités. Parce qu'ils ont un entraîneur déjà qui est là longtemps, qui a pu asseoir vraiment son système de jeu, qui connaît bien vraiment, à tout moment vraiment, qui peut changer des tactiques. Là, aujourd'hui, on constate qu'il est en 3-4-3. Ça montre qu'il maîtrise vraiment son sujet. Et dans le temps, ce qu'il montre, c'est bien. En tout cas, à lui aussi, il a félicité. J'espère que d'autres nations pourront prendre exemple sur ça et d'essayer d'avoir aussi une continuité, une longévité avec des entraîneurs locaux. J'espère que ça pourra porter ses fruits. Mais là, je suis vraiment très impressionné par le football sénégalais, avec une aisance technique, une maîtrise au milieu de terrain. Même quand ils sont sous pression, ils arrivent à ressortir les ballons proprement. Les défenseurs vraiment qui vont au duel, les attaquants qui sont concernés par le premier pressing, Ça, c'est très, très important au football, oui, parce que la première défense, déjà, elle commence à l'attaque. Donc, je suis vraiment très, très impressionné par les Gaïndi.
Sangaré qui a l'air de sortir là, pour l'instant, oui, sur ses
verres. On a vu Franck Kessié aller se chauffer.
C'est vrai que la faute, là, ouais, ça peut mériter un rouge. Ouais, je suis
mais
d'accord.
Après, mais je suis pas comme
même
Sadio Mané.
Même si c'est mon joueur préféré, mais là, franchement.
Non, mais comme c'est Sadio Mané, c'est une vedette, je pense pas vraiment. Pour ne pas un peu.
Non, c'est dur après. Là, on peut parler aussi de l'arbitrage où c'est très dur à la 11e minute de donner un carton rouge à surtout un joueur.
Un joueur phare
de l'autre côté. Ça peut être contesté. Des deux côtés, hein. C'est pour ça que c'est très voilà, la pression en tout cas qui pèse sur les arbitres n'est pas légère, quoi.
Très grosse faute, c'est jaune, jaune orange.
Après, ça
là,
peut dépendre aussi si le capitaine vraiment des éléphants avait demandé le visionnage vidéo, c'est-à-dire la VAR déjà, ça, ça aurait pu peser un peu plus dans la décision de l'arbitre. Parce que maintenant, les arbitres, ils ont des oreillettes et surtout en cabine, ils sont alertés. C'est-à-dire,
Je rappelle que c'est en cabine qu'ils interpellent l'arbitre et ils lui disent de venir voir la VAR s'ils pensent qu'il y a une erreur manifeste. Et là, voilà, ils se disent, voilà,
mais
ça a l'appréciation de l'arbitre.
Par moment, il y a des joueurs qui demandent. On a vu des matchs où des joueurs ils ont fait pression sur l'arbitre, que oui, il y a eu telle décision, il fallait voir la VAR. C'est possible aussi que l'arbitre aussi il décide de lui-même d'aller voir la VAR. Et parce que là, qu'on ne veut pas, c'est l'arbitre qui est le maître du jeu. Ouais. La cabine, c'est juste vraiment au cas où il y a une erreur et tout, un litige vraiment qui serait un peu aberrant et qui corrige. Mais l'arbitre reste toujours le maître du jeu en football. Quoi qu'il arrive, la décision revient à l'arbitre.
Oui, bien évidemment. On va rebondir là-dessus pour quitter un peu. Le continent africain et partir en Europe. On a pu voir notamment ce qui s'est déroulé dernièrement en Ligue 1 sur les performances de Paris, Marseille, Monaco, Lyon, Rennes. Vos premières impressions de ce week-end de Ligue 1, Ibrahim?
L'Olympique de Marseille qui n'a pas réussi à gagner face à l'AS Monaco, avec notamment un raté assez... particulier de Vitinha, qui a été transféré cet après-midi d'ailleurs, je ne sais pas si
en tout cas, il y a un pourparler, il me semble que...
C'est confirmé, il va rejoindre le Genoa, là, Genoa, en prêt avec option d'achat. Oui, donc l'Olympique de Marseille qui n'a pas réussi à s'imposer à 11 contre 9, bon, ils restent sur leur lancée, hein. L'Olympique de Marseille cette saison, c'est pas forcément extraordinaire. Après, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont à la canne, mais il va falloir que l'Olympique de Marseille se rattrape, parce qu'aujourd'hui, à la 19e journée, ils sont 7e du championnat, et C'est pas ce qu'on attendait en ce début de saison. Après, concernant le Paris Saint-Germain, moi, cette équipe-là, depuis le début de saison, j'ai pas vu de progression, en fait. On a l'impression que c'est toujours les mêmes choses. Ce week-end, elle mène 2-0, elle se fait rattraper 2-2 face à Brest.
C'est le gros problème des Parisiens,
c'est
on le voit dernièrement.
Ils n'arrivent pas à tenir un score. On a l'impression qu'il y a des joueurs, j'ai l'impression qu'ils sont toujours pas rentrés dans leur saison. Quand des joueurs comme Colomoigné, par exemple, j'ai l'impression qu'il est toujours pas en confiance. Je sais pas, je le sens pas dedans. C'est pas le Colomoigny de Francfort, ça c'est sûr. Mbappé, il fait ses matchs, mais après, à un moment donné, le football, ça se joue à 11. Donc,
C'est ça, moi je pense qu'on pourrait notamment parler de ça. Hein. Mbappé, la place qu'il prend offensivement, parce qu'à Francfort, faut savoir que Colomoigny était une référence hein, en termes de passes décisives et en termes de buts. Il était à plus de 10 buts et plus de 15 buts et plus de 15 passes décisives. Vraiment pour voir son importance dans le jeu, aussi bien dans le jeu que dans être décisif. Mais maintenant, la question est telle que, maintenant, avec un joueur comme Mbappé, est-ce que ça n'est pas facile de mettre autant de buts et d'être aussi performant, parce qu'on voit bien un ballon dans les 16 mètres, Mbappé il a un ballon dans les 16 mètres, tout de suite il fixe, il veut marquer, tout de suite. Voilà, c'est l'instinct de buteur qui revient, du coup c'est ce qui est compliqué. Pourtant on voit bien, il y a des actions, même notamment hier, je repense à une action en première mi-temps, où il aurait pu servir Colomoigny qui était démarqué, mais il a quand même tenté de frapper. C'est ce que je dis, vous avez vu le but de Colomoigny, il a quand même réussi à marquer hier, mais c'était sur une frappe ratée juste avant de Soler, et il reprend là-dessus et il marque dessus, mais voilà, c'est que des actions comme ça, c'est des actions, c'est des buts de renard de surface, mais c'est plus des buts d'attaquant comme on voyait à Francfort, un but de la tête, un centre ou quoi que ce soit. Moi je pense qu'il est beaucoup moins desservi et c'est ce qui l'handicape beaucoup dans ses stats cette année.
Oui, on sait que c'est un joueur qui aime beaucoup prendre la profondeur aussi, mais il peut pas le faire tout simplement à cause de Mbappé, je sais pas si on peut vraiment l'accuser, parce que Mbappé une fois sur deux devant les cages, on sait que ça fera but. Maintenant, après, le souci du PSG, c'est qu'ils ont recruté des joueurs qui ont le même profil que Mbappé et on ne peut pas se permettre de mettre Mbappé sur le banc, parce qu'aujourd'hui, c'est le joueur clé de cette équipe et quand il n'est pas là, aussi, on le ressent énormément. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et moi, je pense que le PSG avait mal recruté même depuis ce début de saison et que Le coach Luis Enrique, sincèrement, je vois pas de progression moi dans cette équipe. Hein. Et j'ai même peur, limite, pour ce huitième de finale de Ligue des Champions.
Même dans le jeu, tu vois
même
pas...
dans le jeu, je vois aucune progression. Je vois pas où cette équipe va. Ça joue sans réellement jouer. Enfin, je sais pas. On a l'impression qu'ils sont toujours surpris. Et je ressens surtout une grosse naïveté de leur part.
Ok, on va revenir sur les scores de Ligue 1. Le PSG à domicile accroché par Brest 2-2. On a vu Lens s'imposer à Toulouse 2-0. Et on a vu ça s'est maîtrisé entre Lorient et Le Havre. Un beau match hein, avec pas mal de buts, un bon 3-3. Et on a vu notamment un Clermont-Strasbourg 1-1. Et attention, hein, parce que dans le bas de tableau, ça se bagarre beaucoup. Hein. Et on a pu voir Reims-Nantes 0-0 et Montpellier-Lille 0-0 aussi. Et beaucoup de cartons rouges quand même ce week-end. Hein. On a eu 4 cartons rouges ce week-end et on voit bien, le week-end d'avant, on en a eu 5 le week-end d'avant. Beaucoup de cartons rouges en Ligue 1, on a remarqué ce petit point-là. Et Marseille qui a joué contre Monaco quand même à 11 contre 9, en tout cas à 10 contre 11 à partir de la 13e minute, et n'ont pas réussi à s'imposer. On a vu le gros raté de Vitinha et qui s'envolera sûrement pour le Génois cette saison. Lyon qui continue à s'enfoncer. Après, on a vu on a quand même vu Lyon, première mi-temps, ils perdaient très lamentablement, ils retombaient dans leur travers 3-0, mais ils sont revenus en deuxième période avec une autre intention, et c'était un 3-2. On était très proche de l'égalisation lyonnaise, mais Ibrahima, dis-nous, qu'est-ce que t'en penses ?
Non, moi, c'est ce que j'avais dit. J'avais vu que cette équipe de Lyon, ils avaient commencé à se réveiller, notamment juste avant la trêve internationale. On avait vu qu'ils avaient enchaîné 3 victoires d'affilée, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Mais moi, je reste sur ce que je dis. Cette équipe-là, elle est toujours pas bonne, en fait, tout simplement. À un moment donné, vous pouvez faire ce que vous voulez, changer de coach autant que vous voulez. Moi, j'avais dit qu'il y avait une tentative de sabotage des joueurs lyonnais de Fabio Grosso. Je maintiens ce que je dis. Mais cette équipe-là, elle est toujours pas bonne. Hein. Quel que soit le coach, aujourd'hui, on voit. Hein. Y a des joueurs qui sont pas bons, tout simplement. Et Lyon va jouer le maintien jusqu'à la fin de la saison. Est-ce qu'ils vont se maintenir? Je sais pas. C'est vrai qu'il y a vraiment faible aujourd'hui cette saison, notamment Lorient. Mais ça reste à voir. Mais les deux défaites consécutives de l'Olympique Lyonnais me surprennent pas, moi, personnellement.
On voit Amadou et Chekenza qui sont très concentrés sur le match. Hein. Ils l'analysent vraiment au plus profond du truc. On va saluer notre cher ami Arthur qui vient de nous rejoindre. Comment ça va, Arthur?
Ça va bien, merci. Et vous?
Ça va, merci. Ça fait un moment, hein, ça nous fait plaisir de te revoir ici dans les studios de Mon Paris FM. On sait bien que tu suis la Ligue 1. Hein. On sait, très grand consultant.
Loin, parce qu'il y a beaucoup de matchs à suivre, donc faut essayer de tout regarder. Après, la Ligue 1, c'est un championnat qui est pas... Enfin, moi, je ne vais pas dire qu'il est mauvais, mais pas trop intéressant à regarder. Voilà, en termes de qualité, voilà, je trouve qu'il y a des matchs plus intéressants à regarder ailleurs, d'autres championnats à suivre.
Comme lesquels? T'aurais des championnats à nous conseiller?
Ouais, je regarde, dès que je peux, je regarde la Liga, Gérone, et je regarde le championnat allemand dès que je peux, voilà.
D'accord. Et du coup, sur les résultats, t'as pu suivre quand même les résultats de la Ligue 1?
Ouais, je regarde beaucoup les résultats, les feuilles de match, pour savoir comment ils jouent. Et j'essaie de regarder les résumés. Et voilà, je ne suis pas le meilleur consultant pour parler de la Ligue 1. Mais voilà, mais si on veut parler, par exemple, d'une équipe qui est mauvaise, c'est Lyon. Et Lyon, ça étonne pas qu'ils soient...
Qu'ils soient dans les derniers.
Exactement.
Et tu penses que Lyon vont se maintenir ou pas?
Pas du tout. Quand tu regardes la qualité de l'effectif, tu peux changer de coach comme tu veux. C'est pas une question de coach, c'est une question de joueur, d'attitude et surtout de qualité, qualité de joueur. Et il n'y a pas de qualité à Lyon.
D'accord, donc pour toi, ils iront en Ligue 2 la saison prochaine, Lyon?
C'est compliqué. Ils sont capables de faire des coups d'éclat, mais...
On l'a vu notamment juste avant la trêve, ouais. ils ont enchaîné quand même 3 victoires et un match nul d'un coup qui les a propulsés hors de la zone des relégables. Merci Ibrahim. Et du coup, toi Alfred, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu en as pensé de ce week-end de Ligue 1?
Moi, quand je regarde ces trois clubs, je pense qu'au niveau même de l'effectif, est-ce que ces footballeurs-là ont la notion des trois grands clubs de France? C'est ça qu'il faut voir. Paris, Marseille, Lyon. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont tout oublié. Et du coup, la préparation pour l'année prochaine par rapport à la Ligue des Champions, ça ne pense plus. Marseille, ça dépense 30 millions pour quelqu'un. Demain, il s'en va. Lyon, c'est vrai. Il faut reconnaître que voilà, la Lacazette fait au mieux ce qu'il peut. Tolisso, on ne l'en voit pas beaucoup. Donc on se demande même si c'est un problème de vestiaire. Paris, je veux bien comprendre que les gens soient motivés et tout, mais à un certain moment donné, les années passent, c'est toujours la même chose. Il n'y a qu'une seule personne, le héros. Mais le héros, vers la fin, voilà, il va devoir partir. Donc voilà, ils ont fait un Ousmane Dembélé, l'autre il est arrivé. Et ouais. Donc même si parfois il arrive à voilà, se démarquer, mais il n'y a que lui seul. Donc moi, c'est franchement, voilà, il ne redonne pas de la valeur au championnat. Après... Et ça, c'est triste.
D'accord. Après, moi, je pense que ça peut être un peu comme Cristiano Ronaldo au Real Madrid, comme Messi à Barcelone. Les joueurs jouent pour Mbappé au Paris Saint-Germain. Ils s'en cachent même plus. Du coup, c'est un peu normal. C'est devenu la référence. Mais moi, je pense qu'après après lui, bon, on a pu voir le Real Madrid qui se sont très bien relancés après Cristiano Ronaldo. Bon, on a pu voir aussi le Barcelone qui ont chuté... qui ont littéralement chuté après le départ de Messi. Bon, ça commençait déjà avec Messi, hein. Ça commençait déjà avec Messi, mais après le départ de Messi, je pense que c'était le coup de grâce, vraiment, et ce qui font qu'ils ont du mal à retrouver les hautes sphères.
Je veux bien comprendre que jouer pour quelqu'un, c'est bien, mais à un certain moment, une équipe, c'est une équipe. Donc voilà, les actions, voilà, si je suis en mesure de créer une action de but, je le fais. Donc pour moi, je ne vais pas tout le temps donner, c'est ce qu'il y a... Quand le Bayern avait par exemple Lewandowski, qu'il y avait voilà, Ribéry qui était là, il y avait Ruben, et à un certain moment donné, voilà, Ribéry prenait le risque. Tu veux ou tu veux pas, il marque. Tu vois? Donc pour moi, on fait gagner l'équipe. Donc si je suis en mesure de faire gagner l'équipe, je ferai gagner l'équipe. Voilà, donc pour moi. Voilà. Mais s'il n'y a pas cette façon de pouvoir faire du, je sais pas, du mélange, ou soit peut-être d'associer tout le monde. Mais voilà, ça restera toujours comme ça, parce que vers la fin, c'est quoi? On attend que lui, mais s'il n'y a pas de ballon, on va perdre. Donc quelque part, bon, c'est ça que moi, je veux bien que ça repense encore pour redonner encore, voilà, envie aux gens de venir voir ces trois clubs-là. Voilà, parce que là, franchement, si c'est aller l'année prochaine encore en Ligue des Champions, toucher sous soi, peut-être, je ne sais pas, les 20 millions, le combien de millions, là, et puis bon, ben, dire aux abonnés, écoutez, voilà, c'est fini, ça ne sert à rien. Surtout Lyon qui est... Voilà, parce que regardez, pour un exemple, à Monaco, Ben Yedder, il a de l'espérance, quel que soit tout ce qu'il fait, il a des actions où il marque des buts. Voilà, donc c'est tout ça, c'est à féliciter. Mais bon, il vient à Marseille, voilà, donc je ne sais pas, mais franchement...
C'est Kenza, oui.
Dis-moi. Moi, je pense que le problème vraiment de ces trois clubs, c'est un peu là celui de recrutement, qui ne fait pas un travail vraiment remarquable, parce que quand on s'est dit grand club, on se doit vraiment de dénicher les meilleurs talents. Et normalement, un grand club, ils ont en moyenne 500 ou 400 joueurs qui suivent par saison. C'est-à-dire qu'ils suivent des joueurs sur la progression. Parce que vous voyez, aujourd'hui, on a des clubs en Espagne qui n'ont pas les moyens de Marseille et tout, mais qui sortent des saisons remarquables. Parce qu'il y a une vraie cellule de recrutement. C'est ça le problème, au fait.
Il ne suffit pas de... Jérôme.
Voilà, il ne suffit pas de mettre les moyens pour un joueur vraiment... qui fait vraiment une saison. Non, un joueur, ça se suit depuis deux ou trois saisons. C'est-à-dire, on suit le joueur vraiment, sa progression et tout, sa marge de progression. Un joueur, ça se suit et vraiment, un recrutement, ça se prépare. C'est des choses qui se font sur mesure. C'est pas des choses qu'on fait de façon approximative. Quand tu fais un recrutement de façon approximative, ben, tu auras un résultat approximatif. Et à la suite, on ne va pas changer d'entraîneur chaque six mois. Non, ce n'est pas ça le problème. Mais les entraîneurs, quand ils arrivent, certainement le plus souvent dans le club français, ils ont des directeurs sportifs qui dirigent le club. Et moi, je pense que le problème, ça serait de penser comme en Angleterre où le manager est maître de son équipe. C'est-à-dire le manager déjà qui recrute vraiment.
Oui. Et qui fait le recrutement, et, voilà, en tout cas, généralement avec le directeur sportif directement.
Voilà, qui sait vraiment et qui est un peu la même mise sur l'équipe. Moi, en France, on a tendance vraiment à avoir des trucs tellement structurés et tout. C'est-à-dire la bonne école. On se doit vraiment... Mais non, le football, ça ne marche plus comme ça. Parce que tu vois, parce que le directeur sportif, lui, peut amener un joueur que le coach ne le veut pas. Et à un moment donné, ben, le joueur, quand il arrive...
Ça, c'est déjà arrivé hein, à plusieurs, ouais, plusieurs coachs.
Et quand le joueur il arrive, quand il n'arrive pas à s'imposer, ben, c'est totalement autre chose. Et en plus, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. C'est du gâchis. Pourtant, cet argent, il aurait dû servir à autre chose. Et à un moment donné, il faudrait que le club français revoie les cellules de recrutement. Moi, je pense que déjà, à Lille, ils ont une très bonne cellule de recrutement. Lens aussi, on a commencé Lille par le passé. Oui, ils arrivaient à recruter des bons joueurs. qui nous ont permis vraiment de remporter les sacs tout dernièrement. Après, il y a un sac passé. À Lens aussi, ils ont fait une saison remarquable. Mais après, avec le club français, il n'y a pas de continuité. C'est-à-dire qu'on est un peu limité. Quand on fait une saison de waouh et tout, et les hommes de médias et tout ça, les consultants, les journalistes, on commence vraiment à les mettre là où ils ne sont pas arrivés. À un moment donné, il va falloir que oui, qu'on ne rentre pas dans la demesure parce qu'il a fait une bonne saison. Non, ce n'est pas ça. Un top joueur, ça se doit d'être régulier sur 3-4 saisons. Un top joueur, ce n'est pas une saison. Une saison, tout le monde peut la faire. Même toi, tu t'entraînes aujourd'hui, tu es au meilleur de ta forme, tu peux faire une saison remarquable. Oui, tu peux éclabousser sur une saison et tout, et c'est parti. Non, un joueur, ça se doit d'être régulier. Et un club aussi, ça se doit d'être régulier. Un club, ça se doit de progresser. Aujourd'hui, quand on regarde le football français, il a tellement régressé. Et c'est pourquoi le PSG veut à tout prix garder Mbappé, parce que hormis Mbappé, il n'y a pas de vedette. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un vraiment qui permettra plutôt de regarder le championnat. Il n'y en a pas.
Une future star, ouais.
Il n'y en a pas.
En fait, ils ont voulu essayer de faire ça avec Ekitike, qui était super bon quand il jouait à Reims. Il faisait toujours la misère au plus gros. Et là, ils l'ont pris et finalement, ça a été un flop. Mais bon, et du fait aussi qu'il y a Mbappé, je pense qu'il ne peut pas s'épanouir en plus. Je pense qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui pourraient s'épanouir. En plus.
Moi, je pense qu'aucun attaquant ne peut vraiment marcher aux côtés de Mbappé. En tout cas, on voyait Cavani, mais il était imposé, il était implanté avant Mbappé. Et moi, je pense que là, en tout cas, c'est très dur de jouer avec un attaquant aux côtés de Kylian Mbappé. Arthur, dis-nous, qu'est-ce que tu en penses, toi?
Moi, je vais revenir sur ce qu'avaient dit mes deux prédécesseurs par rapport au collectif et le recrutement. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège en disant que c'est le collectif qui rend meilleur les individuels. C'est pas vrai, c'est les individualités qui rendent meilleur le collectif. Parce que plus tu auras des gros joueurs et qu'il y a une complémentarité, plus l'équipe sera forte. Et quand on parle du Real de Cristiano, mais il jouait avec des joueurs qui étaient Pepe, Carvalho,
Marcelo.
Ouais, voilà, exactement, des top joueurs. Kroos,
Ramos, Benzema qui faisait tout le taf. Ouais, mais...
Modric aussi.
Mais il y a combien de joueurs qui sont supérieurs à ces joueurs-là par poste? Il n'y a personne en fait. Qui est meilleur que Kroos, même aujourd'hui encore? Qui est meilleur que Modric aujourd'hui encore dans son rôle? Il n'y a personne qui est meilleur que Benzema. Et en fait, ce qui a fonctionné, c'est l'alchimie entre ces joueurs qui sont mis au service du collectif. Parce que certes, Cristiano, il mettait ses 50 buts ou 60 buts par saison. Mais les autres aussi tournaient à 20, 25 buts. Gareth Bale, Benzema, ils n'étaient pas inactifs. Ouais. Comme d'autres joueurs comme Casemiro qui a mis des buts décisifs importants. Modric aussi, Kroos aussi. Donc en fait, on ne peut pas résumer. Aussi. Oui, on peut pas résumer le Real à un seul joueur. Et c'est pareil. Et c'est la différence avec le PSG de Mbappé. C'est qu'il y a combien de top joueurs qui entourent Mbappé en fait. Quand on regarde le milieu de terrain, on parle de Ugarte, mais c'est un jeune joueur qui est prometteur. Mais ce n'est pas un top joueur. Comme Vitinha, c'est un jeune joueur prometteur. Mais ce n'est pas un top joueur. Colomwani, il a fait une saison et demie à Nantes un peu et à Francfort qui l'a bien explosé. Mais sinon, ce n'est pas un joueur de top niveau aujourd'hui. Ousmane Dembélé, c'est un gros joueur, mais qui manque de finition, qui ne fait pas de stats. Voilà, donc le PSG, c'est...
On peut penser aussi à Zaïre Emery qui arrive. Hein. Moi, je pense que Zaïre Emery, demain, on peut miser gros sur lui.
On mise gros sur lui.
Et je pense que demain, ça peut être l'un des joueurs qui fait qu'on regarde beaucoup la Ligue 1, en tout cas. Une de ses pépites montantes. En tout cas, on l'espère pour lui.
Mais oui, c'est un futur top joueur. Qu'est-ce qu'on peut dire à un mec qui fait des gros matchs en Ligue des Champions, bien sûr. Mais aujourd'hui, on l'utilise à mauvais escient parce qu'on veut le faire jouer et on le met latéral droit. Donc, en fait... je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire jouer Zaïre Emery. Je pense qu'il devrait le mettre au milieu de terrain. Et c'est pour ça qu'aussi hier ou dans notre match, dans d'autres matchs précédents, PSG, ils ne sont pas surperformants puisque le meilleur joueur pratiquement du début de saison, c'est Zaïre Emery.
C'est vrai qu'il apporte cette explosivité au milieu de terrain et que quand il n'est pas là, on ressent ce manque d'explosivité qui est un ballon qui va vers l'avant directement, qui se projette avec cette puissance-là. Amadou, toi, dis-nous en tout cas, on a eu une équipe de Marseille un peu dans le dur. Hein, Marseille face à Monaco, hein, un 2-2 à domicile. Très compliqué, qu'est-ce que tu en penses?
Ils avancent plus. Ils ont la plupart de leurs joueurs qui sont partis à la Coupe d'Afrique. Mais on ne sait pas ce qui manque. Pourtant, il y a des très bons joueurs, mais il n'y a pas encore d'alchimie. On ne comprend pas ce qu'ils font. C'est vrai que là, ils vendent Vitinha.
Moi, c'est surtout le profil des joueurs et la façon dans laquelle tu fais évoluer ces joueurs. C'est-à-dire que pour moi, c'est plutôt des joueurs de transition parce que quand tu recrutes des Ismaël Essar, Aubameyang et j'ai oublié en plus.
Ndiaye,
exactement, c'est plutôt des joueurs qui sont faits pour la transition, pas dans la maîtrise. Et, Et quand on regarde les matchs de Marseille, ils essayent d'être dans la maîtrise et ça ne fonctionne pas. Donc je pense que dans le style de jeu, c'est compliqué. Et aussi, sur ces derniers matchs, quand on regarde le banc de touche, c'est des joueurs amateurs. C'est pas des joueurs professionnels. Qu'est-ce que peut apporter aujourd'hui le banc de Marseille? Rien du tout. Donc c'est compliqué de gagner à chaque fois tous les matchs à ce niveau-là avec un effectif aussi diminué.
Après, on sait qu'ils ont des absents majeurs, hein, notamment Chancel Bemba. Et on peut avoir quelques joueurs aussi comme Unai, Harit, qui manquent aussi à cet effectif-là et qu'on voyait dernièrement, en tout cas, jouer assez bien quand même. En tout cas, ils rendaient des copies assez correctes. Et on peut maintenant voir ce que ça a engendré, en tout cas, sur le classement. Le PSG qui reste premier à 6 points de Nice, qui conforte leur place de deuxième. Brest qui reste à la troisième place avec un beau match nul Au Parc des Princes. On voit Marseille qui est à la 7ème place là, qui n'est même pas dans une place européenne.
Hein. Ah bah oui.
C'est quand même au podium, ils sont à 6 points du podium, à 6 points de Brest, sachant qu'il y a Monaco entre eux, Monaco, Lille et Reims.
Monaco qui n'avance plus aussi. Hein.
Oui, et Lens, et Lens qui avance, hein. Lens qui sont remontés, hein. Lens qui était en bas de tableau, maintenant qu'ils sont à égalité de points avec Marseille, juste une petite différence de but qui les sépare. Voilà, ça va jouer jusqu'au bout. Hein. On voit Lyon qui sont 16e et qui sont là pour l'instant pour les barrages de la relégation, avec Clermont 15e et Lorient, Clermont 17e pardon, avec 15 points et Lorient 18e avec 13 points. On sent que ça joue encore. Hein. Ça peut, au moindre petit match, une petite victoire de l'un comme de l'autre, ça peut les propulser tout de suite en dehors de la zone relégable.
Pour quelle équipe, dis-moi?
Pour n'importe, pour Lyon non. Comme pour Clermont.
Moi, je pense que Lorient sont condamnés puisque les dernières semaines, quand tu faisais état du vestiaire où ça partait dans tous les sens entre la relation des joueurs et de l'entraîneur.
Et du coach, oui, c'est vrai.
Voilà, et surtout le professionnalisme de certains, c'est compliqué à gérer. Et si tu joues la relégation ou le maintien, c'est la même chose, mais bon. Ça va être difficile en fait d'avoir des joueurs dans cet état d'esprit là en fait. Tu peux pas te maintenir avec des joueurs qui sont pas dans le projet en fait. Et quand tu regardes qu'ils prennent des Benjamin Mendy etc, ces mecs là ils sont dans quel projet sportif en fait? Ils sont là pour se relancer mais ils vont pas rester au club, donc l'avenir de Lorient ça les impacte pas personnellement.
Bah, on a vu dernièrement même il n'a même pas joué Benjamin Mendy,
même pas dans le groupe.
Oui, même pas dans le groupe, hein. Bah, ça on peut penser aussi aux dernières sorties médiatiques qu'ils ont pu avoir l'un et l'autre, et voilà, les relations qui se détériorent encore de jour en jour.
Quand t'entends un petit, on parle d'un petit qui commençait à pousser Croupier Junior et que on parle de son comportement, ce n'est pas possible en fait. Si un gamin de 17 ans déjà il est aussi important dans le sportif.
Un collectif,
dans le sportif, parce que c'est celui qui marquait des buts et on te dit déjà qu'il a la grosse tête et qu'il est difficile à gérer, ce n'est pas possible en fait. Comment tu vas recadrer un petit comme ça? Tu vois, et t'as pas de solution derrière, puisque si lui joue pas, qui va jouer et être performant devant en fait? C'est ça qui est compliqué.
Faut dire qu'il y a certaines recrues, notamment Tiemoué Bakayoko, enfin, il avance plus quoi. Donc ça va être compliqué de se maintenir avec tout ça. Ils ont quelques joueurs qui sont partis à la CAN, ils ont essayé de remplacer Mofi. Il faisait une bonne saison l'année dernière avec Bamba Dian, mais c'est pas efficace. Donc je pense que moi aussi je suis du même avis qu'Arthur, je pense que Lorient est condamné. Maintenant ça va jouer entre Lyon et rappelle-moi, je sais plus qui est.
Lyon, Clermont et Lorient. Metz, Toulouse.
Ouais, je pense que ça va jouer entre Metz aussi, je les vois assez faibles. Je pense que ça va jouer entre ces équipes là, mais.
Ouais, mais il y a encore plus haut, hein. Il y a Montpellier qui a que 19 points, Nantes aussi. Bon, donc,
Montpellier, ils sont 4 points comme chaque année. Mais. Ouais. Pour le reste, je pense que ça va être assez compliqué. Mais Lyon peut descendre en Ligue 2. Hein. Faut être réaliste aujourd'hui.
Ah oui, c'est sûr que leur place est en danger. Hein.
Déjà, pour l'histoire du barrage, c'est que s'ils passent en barrage, ils ne joueront pas au Parc OL, vu qu'ils l'ont loué pour le concert de, je crois, Taylor Switch. La vérité, c'est vrai. Hein.
Mais là, c'est une.
Mais oui, ça veut dire
là, vraiment, c'est une dinguerie.
Ils joueront pas à domicile. Hein.
Au début de saison, qui pouvait se dire que Lyon allait se retrouver dans cette situation-là, franchement.
Une situation inconfortable, vraiment.
Ils ont fait trois coachs quand même.
Mais regardez, regardez la qualité de l'effectif. En fait, il y a des joueurs, ils sont inconnus au bataillon. On sait
non,
même pas
d'où
ils sortent.
C'est des joueurs de Ligue de Belge, sans manquer de respect à qui que ce soit. Hein, mais c'est ça.
Mais les autres, c'est quoi? Franchement, il y a des gens, ils ont même pas leur photo dans Football Manager. Personne les connaît. Ils sont en bronze à FIFA.
C'est ça,
c'est abusé.
O'Brien, Je sais pas d'où il sort.
Lovren, ils sont allés le chercher à l'hospice.
Ouais,
c'est pas possible.
Mais en fait, tout ça, c'est Textor, hein, sincèrement.
Parce mais que... on sait pas. On parlait
du recrutement, c'est farfelu. On voit des joueurs.
Je pense que Textor, c'est pas lui le problème, c'est la semaine du recrutement.
C'est lui qui choisit de. Ouais, non, mais il bosse avec ses gars.
C'est ça.
Donc voilà.
Donc ça fait que t'as des mecs qui viennent de Botafogo, ensuite ils vont à Lyon, Crystal Palace, Molenbeek, c'est du n'importe quoi en fait. D'un mercato à un autre, tu peux avoir 8 changements entre ces clubs-là.
Exactement, mais c'est pas possible.
C'est lui l'actionnaire de Botafogo, c'est ça?
Oui, de Botafogo, Crystal Palace et
Molenbeek. On parle de Brésiliens qui devraient arriver à l'OL.
Encore.
Mais quel Brésilien? Quel niveau surtout?
Exactement.
C'est ça. On va basculer, voilà, le temps qui défile, hein, on va basculer sur le championnat allemand, très rapidement sur les résultats. Brahima, est-ce que tu peux nous donner les résultats de cette journée de Bundesliga?
On a Dortmund qui s'est imposé 3-1 face à Bochum, l'Union Berlin qui a battu Darmstadt 1-0, Leverkusen qui a fait 0-0 face à Gladbach et qui reste invaincu, Wolfsburg qui fait match nul face à Cologne, Hoffenheim match nul face à Heidenheim, le Werder qui s'impose 3-1 face à Fribourg, le Bayern qui l'emporte 3-2 face à Augsbourg. La surprise, c'est que Stuttgart l'emporte 5-2 face à Leipzig. Francfort bat Mayence 1-0. Et c'est tout pour cette 19e journée de Bundesliga.
Voilà, la bonne opération pour le Bayern Munich, qui s'en sortent quand même avec un 3-2 face à Augsbourg et qui reviennent à 2 points de Leverkusen. Hein. Leverkusen qui ne font pas la bonne opération en faisant un match nul, parce qu'on sait bien que pour le titre, il faut enchaîner les victoires. Et là, contre Mönchengladbach, sur un match qu'ils ont dominé de bout en bout. Hein. Vraiment, ça a été impressionnant. La possession de balles, elle s'est jouée ça allait dans un sens unique, mais il manque de réalisme devant les cages. En tout cas, ils n'ont pas pu finir. Pourtant, ils ont eu pas mal d'occasions. Hein. On peut voir, hein, c'est 28 tirs quand même. Hein. 28 tirs, 8 cadrés et pas un but. Hein. C'est, voilà, pour vous dire, hein, ça a été très compliqué pour le Bayer Leverkusen. Alfred, dis-nous, qu'est-ce que tu en penses de ce championnat allemand et de cette journée-là?
Après, pour l'instant, comme je dis, le Bayer Leverkusen est en course, mais comme je dis, vers la fin, il y a l'épuisement. Donc, pour moi, ça commence à se faire sentir. Le Bayern n'est pas rassurant aussi. Il faut le dire que parfois, les choix techniques de l'entraîneur ne sont pas ça. Avant de gagner là, la semaine d'avant, c'était compliqué.
Donc, la semaine d'avant, ils ont perdu contre le Werder Bremen. Hein.
Voilà. Donc déjà, le choix déjà, de faire jouer, comme on appelle ça, le Reusane à gauche et faire jouer Kniske Coman à droite, c'était, ils n'en voulaient pas. Donc pour moi, voilà. Faut... Après, il y a des clubs qui montent. Hein. Donc pour moi, pour l'instant, ce n'est pas encore joué. C'est vrai que le Bayern gagne tout le temps, mais voilà, il faut patienter un peu.
Pour la beauté du football, il faudrait quand même qu'une équipe réussisse à détrôner le Bayern quand même, parce que ça commence à faire très long. On est sur 14 titres d'affilée, il me semble. Non, je ne sais plus.
10 titres d'affilée.
Tu vois, ça fait beaucoup. Ça commence à faire un peu beaucoup. Dortmund est passé à un match près la saison passée de remporter le titre à la dernière journée. Ils ne l'ont pas fait.
C'est une faute professionnelle.
Pour l'instant, Leverkusen est toujours invaincu. On espère qu'ils iront chercher le titre quand même pour qu'il y ait un peu de changement dans le championnat allemand.
C'est vrai, mais ça va être quand même très compliqué. Hein.
Ah, c'est sûr.
Ça va être quand même... Et on a vu aussi Leipzig, hein, Leipzig qui n'y arrive plus. Hein, Leipzig qui n'y arrive plus. Oui, qui ont perdu à Stuttgart avec un triplé d'Undav. Franchement, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses chez Kenza du RB Leipzig qui enchaîne les défaites. Hein. Ça fait 3 défaites consécutives pour RB Leipzig qui reste figé à cette place de 5e.
Oui. Leipzig, vraiment, Leipzig, c'est une équipe, il y a 2 ou 3 ans, qui pouvait vraiment prétendre gagner le titre. Mais Leipzig, c'est une équipe vraiment qui a une politique, c'est-à-dire depuis des jours et tout, du fait du profit. Quand tu regardes un peu l'équipe de Leipzig, c'est pas une équipe vraiment qui veut vraiment décrocher le sac et tout ça. Ils sont pas dans la continuité. Leipzig, c'est des équipes vraiment c'est des équipes un peu de transition. C'est-à-dire vraiment qui payent des joueurs prometteurs, qui arrivent vraiment à éclore et au final, ils les vendent. Parce que là, quand tu regardes un Nkunku vraiment qui était très bon à Leipzig, et en plus, qui part, et il y a pas mal de joueurs vraiment de Leipzig en fin de saison qui partent. Donc je pense que là, vraiment, c'est un nouveau collectif et tout ça, il faut du renouveau. Il va falloir un peu plus de temps. Je pense que l'année prochaine, peut-être Leipzig, ils pourront peut-être prétendre y jouer peut-être les têtes du championnat.
Attention, on a quand même vu une très belle équipe de Leipzig en ce début de championnat, avec notamment Dani Olmo qui était impressionnant jusqu'à avec sa Luis blessure. Openda. Et Luis Openda aussi qui continue à empiler les buts. Xavi Simons aussi. Même un Poulsen, Forsberg. En tout cas,
Leipzig qui avait corrigé le Bayern en début de saison, 3-0.
Mais cette équipe-là ne peut pas prétendre vraiment avec le peloton des têtes. Parce que là, quand le rappelle pas, le Bayern Leverkusen vraiment avec Xabi Alonso, il mâche de l'or et tout leur réussit en ce moment. Et après il y a le Bayern aussi qui est là vraiment qui arrive vraiment à mieux gérer le sprint final. Je pense qu'en Bundesliga, il y a plein d'équipes qui peuvent prétendre au titre. Mais le problème, c'est le sprint final. C'est-à-dire, dans les dernières journées, on a comme l'impression qu'il y a toujours les vieux démons qui reviennent. C'est-à-dire, ces équipes-là ne sont pas préparées. Donc, je t'ai dit, Leipzig, présentement, il peut faire une bonne saison, mais ils ne sont pas préparés à gagner le titre. Parce que le titre, ça se prépare déjà. Comme on le dit, un championnat, ça se prépare depuis la pré-saison. Et chaque club a ses objectifs. C'est-à-dire, depuis la pré-saison, le club, ils mettent les moyens pour se dire « Ah, ben, cette saison, on est préparé peut-être à gagner le titre. » Et c'est des choses qui ne se font pas comme ça. Même quand tu regardes le Lille de Gatier, j'ai un exemple qui… Ouais. Ouais, le Lille de Gatier, mais ils prenaient match par match, mais en interne, on sentait qu'ils étaient préparés pour gagner quelque chose. C'est-à-dire que quand ils arrivaient sur le terrain, tu savais qu'il avait des soldats. Ça, déjà, depuis la préparation… Il y a des objectifs qui sont fixés. Au football, c'est pas comme ça. Le football, c'est pas comme si on jouait au City. Non, c'est pas comme ça. Il y a des trucs qui sont préparés. Le club a ses objectifs personnels et qui vont pas divulguer. C'est des choses qui restent en interne. Parce qu'en football aussi, il y a plein de secrets. Il y a des choses qui restent en interne qui sortiront jamais. Je pense que Leipzig, présentement, ils jouent du beau football, mais ils sont pas préparés à gagner le titre.
Merci pour cette analyse, Cheikh Kenza. Et on va rappeler rapidement les résultats de la Serie A ce week-end. Celle qui fait la bonne opération, c'est l'Inter de Milan, qui se sont imposés à la Fiorentina 1-0. On a vu un match très terne entre la Lazio et Naples, un 0-0, voilà, très, très limpide, si on peut dire. AC Milan-Bologne, un 2-2 avec un pénalty loupé de Giroud. Hein. On sait bien que dans ces moments-là, il ne faut pas louper. En tout cas, c'est dur de louper ces pénaltys-là parce que ça peut condamner l'équipe. Et là, c'est très compliqué. La Juventus qui ont été réduits à 10 très rapidement dans le match et qui ont fait 1-1. Vlahovic qui marque 5 buts quand même en 3 rencontres hein, consécutives. C'est impressionnant. Mais bon, ils ne font pas quand même la bonne opération. Et au classement, l'Inter qui prennent les devants avec un match de retard sur la Juventus et ils ont un point de plus. On voit la Juventus deuxième quand même avec une place de dauphin. Je pense que le duel va jouer entre les deux hein, jusqu'au bout de la saison hein, parce qu'on voit l'AC Milan qui décroche un peu avec 46 points qui sont à 7 points de la Juventus. Ibrahima, dis-nous ce que tu en penses de ce championnat italien.
Personnellement, je suis assez impressionné par l'Inter Milan, moi, qui dégage une sérénité comme j'ai rarement vu. Une équipe assez solide. Ils ont une journée de retard là par rapport à la Juventus. Ils sont quand même en tête du classement. Je pense qu'ils vont aller décrocher le titre quand même à la fin de la saison. Et j'aime beaucoup Lautaro Martinez dans cette équipe qui enchaîne les grosses saisons. Marcus Thuram aussi qui me surprend franchement pas mal. Je pensais pas qu'il allait se mettre à ce niveau de jeu du côté de Milan. Et oui, je pense qu'ils iront chercher le titre. Ça risque d'être compliqué parce que la Juve est quand même assez proche, mais. S'il continue sur ce rendement-là, l'Inter Milan sera champion d'Italie.
C'est surtout la performance de Thuram qu'il faut saluer. Franchement, il monte en puissance là-bas. Il a su s'imposer. Et ouais, il a de bons résultats, il faut reconnaître. Hein.
Il a des bons résultats en termes de passes décisives et en termes de buts. Hein.
Et ça pourrait même peut-être changer la hiérarchie en équipe de France. Hein. On ne sait pas, avec l'Euro qui vient, Didier Deschamps pourrait se poser des questions. Marcus Thuram pourrait peut-être passer devant Kolo Muani, ou on ne sait pas. Ou peut-être même Giroud qui
est
vieillissant.
C'est fort possible.
C'est fort possible. Hein. Donc franchement, il me surprend et je suis franchement content de sa saison avec l'Inter Milan.
On a déjà vu Giroud être mis à l'écart un peu avec Kolo Muani. On commence déjà à faire la rotation. Hein. Maintenant, c'est sûr que ça va jouer entre Kolo Muani et Marcus Thuram. Mais maintenant, il faudra voir aussi parce qu'il y a des nouvelles pépites qui arrivent. Hein. On peut penser aussi à Mathys Tel. Et là, on voit un débordement de Sadio Mané. C'est ce qui... Oh là là, c'est passé très proche. Et c'est pas sorti pour l'instant. Ça n'est pas sorti. Et ça rejoint une balle en retrait. Attention. Et non, ça sera pas pour cette fois-ci.
Par rapport au match qu'on est en train de visionner actuellement, le scénario me rappelle beaucoup celui face à la Guinée équatoriale où les Sénégalais n'ont pas touché un ballon depuis leur but et les Ivoiriens ils n'ont pas cadré une frappe. Quoi. Mais oui, à chaque occasion, les Sénégalais, on sent que ça peut faire but.
Donc, voilà, là c'était très, très proche dans cette équipe.
Énorme match de Sekou Fofana qui court partout depuis tout à l'heure. Il joue pour 5.
Ah oui, c'est Sekou Fofana qui compense. On va partir sur le championnat espagnol. Alfred, dis-nous ce que tu as pensé de ce week-end avec l'Atlético de Madrid qui se sont imposés 2-0 à Valence, le Real Madrid qui se sont imposés à Las Palmas 2-1, et on a vu aussi une équipe du Barcelone, un très beau match entre Villarreal et le Barça qui se sont déroulés qui a eu un 8 buts quand même dans cette rencontre. Il y a eu 8 buts et on rappelle le score 5-3 pour Villarreal qui menait d'abord et qui ont été menés juste après et qui sont revenus encore. Ça a été vraiment un match avec pas mal de rebondissements. Qu'est-ce que t'en penses, Alfred?
Après, au départ, certaines hiérarchies ont été respectées par rapport au Real et puis Gérone. Maintenant, concernant le Barça, c'est pas étonnant, ça ne va pas. Donc, ça ne va pas, il y a beaucoup d'inquiétudes. L'entraîneur lui-même a jeté déjà l'éponge. Donc, il va falloir préparer quelqu'un d'autre. Pour moi, de loin, je pense que ce serait peut-être Luis Van Gaal qui pourrait peut-être s'imposer, avoir un peu du caractère pour pouvoir remettre les choses dans l'ordre. Donc, c'est ce que je vois. Après, les autres clubs essaient de se battre. Il y a Séville, les autres. Donc, pour moi, il faut faire avec pour l'instant.
Séville qui sont dans le dur. Hein. Mmh. On va passer directement à la question du sommaire. Xavi, est-ce que Xavi a annoncé son départ du FC Barcelone pour la fin de la saison? Le coach espagnol a-t-il fait le bon choix? Et qui pour lui succéder? Amadou, on t'écoute.
Pour Xavi, je crois entendre que Arteta ne resterait pas jusqu'à la fin de la saison.
Non, c'est faux. Il a démenti. C'est officiel. Il a démenti. Ouais. Il a dit qu'il était très énervé aussi de cette fake news là. Oui.
Ouais. Parce que bon, c'est vrai que des fois, bon, c'est pas pour rien quand on entend des choses aussi. Bon, sachant que lui, il a été formé à la Masia, bon, ça peut être aussi crédible hein, d'aller dans un grand club qui est Barcelone. Bon, Barcelone qui est peut-être un plus grand club qu'Arsenal.
Oui, après
mais quel est son intérêt hein, parce qu'il est dans le meilleur championnat, avec les moyens, donc pourquoi partir?
Avec une équipe de cœur aussi, parce qu'il a beaucoup joué à Arsenal, et c'est une aussi, équipe de cœur qu'il a depuis très longtemps, et on savait qu'il
était capitaine là-bas.
Voilà, il était capitaine, il avait à cœur d'entraîner cette équipe-là, et on sent Arteta vraiment installé, qu'il n'est qu'au début de ses travaux, hein, parce qu'on voit qu'il installe beaucoup de choses avec une équipe très jeune, du coup je le voyais mal partir comme ça, du jour au lendemain, avec une équipe qui est complètement en reconstruction, avec un attaquant Lewandowski qui est à 35 ans, qui est au bout du bout et on n'arrive pas à trouver de bons remplaçants. Arthur, dis-nous-en un peu plus, toi côté coach,
Moi je vais parler, déjà on va regarder la compo. Quand on regarde la compo, on voit le gardien Pena qui remplace un gardien blessé.
Ter Stegen, qui manque énormément.
Excellent gardien.
Mais moi je vais parler, de toute façon il faut être... Il faut regarder déjà l'effectif, en fait. Il faut se dire, quand on regarde le grand Barça d'il y a quelques saisons et qu'on compare, mais c'est une équipe, elle n'est pas forte, en fait. Il y a combien de joueurs, là, on va dire, dans le 11, qui est titulaire à Villarreal? Il y a combien de joueurs du Barça qui est titulaire à Riron ou au Real? Mais c'est la vérité. Mais c'est un effectif qui est moyen. Quand on regarde les joueurs, aujourd'hui, Ferran Torres, c'est qui dans le football? Comme Joao Félix, c'est un joueur qui a du talent, mais qui n'a jamais fait une grosse saison... complète. Lewandowski, ça n'a jamais fonctionné au Barça. Romeo, c'est un joueur moyen.
Peut-être la saison dernière, quand même, Lewandowski. Bon, il fait quand même
souvent blessé. Hein.
Oui. Non, la qualité,
après,
elle est là.
L'âge.
Mais exactement. Mais sauf que ça n'a pas matché avec le style du Barça. Et quand on regarde la construction du milieu, il faut me dire la différence entre Gundogan et De Jong, c'est à peu près le même profil de joueur. Donc il n'y a pas de complémentarité. C'est la même chose. Donc compliqué, en fait, d'empiler des joueurs comme ça. Et offensivement, qui est capable de mettre des buts dans cette équipe, en fait? À part Lewandowski.
Un jour c'est Ferran Torres, un autre jour c'est Joao Félix. Ouais. Mais c'est très limité. En tout cas, il n'y a pas de vrai leadership à l'avant.
Il n'y a pas vraiment de 11, ça change tout le temps.
Tout le monde est remplaçable dans cet effectif. Et surtout, comme je dis, je parle de la qualité. Il y a combien de joueurs qui seraient titulaires, même au PSG, par exemple? Du Barça, pas beaucoup.
Pas beaucoup, franchement.
Exactement.
Gundogan et Frenkie de Jong, tu penses? Ter Stegen notamment aussi dans
oui,
le cage.
Oui, peut-être, mais après c'est un effectif
défensivement, c'est très faible. Offensivement, c'est pas...
Mais oui, c'est pas des top joueurs. Il faut des top joueurs. Il faut pas des joueurs moyens.
C'est une équipe de joueurs très jeunes qui sont très surcotés aussi, malheureusement.
Aussi, bon, on pense à Lamine Yamal, lui, qui n'est pas surcoté, mais il se repose quand même sur lui. Hein. On rappelle Lamine Yamal.
Il a 17 ans, il me semble.
C'est un 2007.
Il a l'air d'avoir...
Il a 16 ans encore. Ah oui, il n'a pas eu ses 17 ans.
Ah ouais, d'accord.
Oui. Ah ouais, il se repose sur un gamin de 16 ans. Et franchement, ils l'ont critiqué, hein, beaucoup critiqué, parce qu'on a pensé au loupé contre l'Atlético Bilbao, et en Supercoupe, où il met un crochet au gardien et il loupe cette frappe. On pense que c'est quand même...
Mais c'est compliqué, même quand on regarde les entrées en jeu de Victor Roque, mais c'est compliqué aussi pour lui, il apporte pas de la sérénité, tu vois qu'il est fébrile devant.
Beaucoup de loupés, exactement. Beaucoup de loupés, pourtant des occasions assez franches, on a pu voir.
Ouais. Mais il n'est pas dans l'environnement pour qu'il puisse exploser, tu vois.
C'est la mi-temps, le match du Sénégal.
Oui, la mi-temps entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. On se reverra à la fin pour faire un petit débrief très rapide entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais pour l'instant, le Sénégal qui mène 1-0. Bon, c'est un match assez équilibré quand même. Attendez, pas tous en même temps, s'il vous plaît.
Ah oui, énorme domination ivoirienne. Les Sénégalais ont touché 3 ballons, mais ça aurait pu faire 3-0 en fait.
Ils ont touché énormément de ballons, mais il n'y a pas eu de vraie occasion franche.
Ah si, il y en a une seule. Après le but, il y en a une seule, et Sadio Mané qui fait d'énormes dégâts sur son côté dès qu'il a la balle, mais sinon la domination est clairement ivoirienne avec un Seko Fofana excellent ce soir, mais ça ne marque pas de but, et en fait, pour l'instant la Côte d'Ivoire est éliminée, c'est ça le souci en fait.
Il court derrière le score. Moi j'ai le sentiment que depuis c'est vrai, la faute litigieuse de Mané, j'ai l'impression qu'ils ont baissé de pied. Bon, après peut-être sûrement s'ils les attendent vu qu'ils ont marqué, après peut-être que c'est dans les consignes de faire le dos rond en attendant pour pouvoir piquer directement derrière. Après, bon, c'est vrai que c'est la Côte d'Ivoire qui doit faire le jeu. En plus, c'est sur à domicile. Et ils sont menés. Donc, bon, après, c'est à voir. Bon, après, en poussant, peut-être la Côte d'Ivoire peut faire quelque chose. On verra ce que leur coach va leur dire. Méfiance quand même, ouais.
Moi, c'est compliqué pour... Parce que j'ai parlé toujours d'individualité, mais en Côte d'Ivoire, qui peut marquer un but dans cette équipe?
Pas Christian Gomez, c'est sûr.
En fait, il y a un problème. L'équipe, vraiment, ils ont préparé la CAN avec un Sébastien Leu. Cela, j'ai vu que vraiment...
Exactement.
Cela, je vois que le groupe vraiment est limité. Le groupe est limité parce qu'on ne peut pas préparer une compétition qu'on a gardée chez nous avec un attaquant. Pourtant, ça, au football, au football, rien n'est logique. À tout moment, un joueur il peut avoir une blessure, un joueur peut être en état de méforme. Donc, on ne peut pas préparer un plan de jeu avec un seul attaquant. C'est comme si on n'a pas Sébastien Leu, mais on n'a pas quelqu'un vraiment pour enfiler le but. Pourtant, le football, quand on joue, c'est pour marquer au but. Donc, il y a un problème. Oui, il y a un problème vraiment dans les choix, vraiment, et dans les choix, dans la liste vraiment qu'ils ont proposée.
Ah oui,
on a vu vraiment que, il n'y a pas cette profondeur de banc. Tu imagines un Jean-Philippe Crasso, certes, il est bon. Il est bon dans son attitude. Non, mais sans ballon, limité, même avec le ballon, mais c'est pas un tueur. C'est pas un tueur, c'est pas quelqu'un vraiment qui peut enfiler des buts sur des buts. C'est pas quelqu'un vraiment qui a besoin de deux occasions. C'est pas quelqu'un qui est hyper réaliste. Donc, à un moment donné, je pense que là, à moins que vraiment un coup de billard et tout, peut-être une action qui peut arriver, mais vraiment l'équipe de Côte d'Ivoire déroule, mais ils n'ont pas vraiment ce tueur qui manque à cette équipe.
Mais c'est vrai qu'au niveau par rapport à ce que tu disais au niveau du groupe, je comprends pas le concept d'appeler des joueurs blessés en fait, parce qu'aujourd'hui on est en 8e de finale. On nous avait dit qu'il allait peut-être pouvoir jouer ne serait-ce que le second tour des phases de poule, et aujourd'hui on est en 8e, il a toujours pas joué une minute quoi. Alors qu'on a laissé Zaha en Turquie, donc je comprends pas trop.
Ouais, moi aussi je comprends.
C'est sûr
que
c'est pas le même profil.
Beaucoup de choix discutables. Beaucoup de choix discutables.
C'est pas le même profil de joueur, mais c'est franchement c'est très discutable quoi.
Mais je pense qu'ils en avaient besoin pour l'état d'esprit du groupe et pour avoir de confiance. T'es en confiance quand le gars il est là, tu le vois au quotidien, et il va t'apporter quelque chose puisqu'il a envie lui d'être là-bas.
C'est sûr, mais en confiance pour combien de temps? Parce qu'il faut
se
qualifier.
Sincèrement, je pense que non. Je pense qu'une grande équipe, vraiment, un grand manager, un grand sélectionneur, il n'aurait pas fait ce choix. Parce qu'un joueur, quand il est blessé, il est diminué. Qu'on parle de confiance ou pas, quand on organise une compétition, c'est vrai. Même quand on vient de CAN, quand on vient de compétition, et qu'on a une nation comme la Côte d'Ivoire, on se doit vraiment d'avoir tous ces soldats en état de forme. Donc on ne vient pas vraiment... On part pas à la guerre avec un pied cassé ou une jambe cassée.
Mais ça, c'est ce qu'on dit, mais la réalité, elle est différente. Zidane, en 2002, c'est pareil. Il était blessé avant la compétition. On l'a gardé jusqu'au bout. Mossala, c'est pareil. Mané, il a fait des cannes. Il était blessé.
Non, c'est la dernière Coupe du Monde.
Je veux dire que tes leaders, ils sont jamais à 100%, mais ils sont là, ils vont jouer jusqu'à...
C'est sûr, mais là, on parle d'une blessure où il n'est pas apte à jouer une minute, en fait.
Oui, mais t'en as besoin. Beckham, un jour, il a accompagné la sélection anglaise. Il était en costard sur le banc. Donc, des fois, on n'est pas dans le groupe, mais on a besoin de ces mecs-là.
On a besoin de ces gens-là pour
donner de la force.
Exactement, parce que les gens même se sentent en confiance quand on est bien entouré.
Eto'o avec le Cameroun, ils n'auraient jamais passé le deuxième tour. Qu'il y a Eto'o, ils ont passé ce tour-là.
Oui, ça compte énormément. On va faire une petite, un petit 30 secondes chrono pour la question suivante. Selon vous, la CAN est-elle au niveau des autres grandes compétitions, la Coupe du Monde, l'Euro, Copa et la Coupe d'Asie? Arthur, on va commencer avec toi.
La Coupe d'Asie, c'est parti. Pour moi, la CAN, elle était vraiment spectaculaire. Je trouvais que les équipes, elles étaient tournées vers l'offensive, que les équipes essayaient de ne pas jouer bloc-bas, enfin certaines. Et franchement, il y a eu des buts incroyables. Et pour moi, il y a une vraie évolution tactique Et tous les joueurs ont progressé, surtout les équipes petites et moyennes. Il y a eu énormément de promesses comme de surprises comme la Mauritanie, comme le Cap-Vert. Et voilà, il n'y a qu'une seule équipe qui a mérité son statut de favori pour l'instant, c'est le Sénégal. Voilà.
Merci Arthur Trépil. Et du coup, et toi Alfred, est-ce que tu penses que la CAN fait partie, en tout cas, où est-ce que tu la classerais entre la Coupe du Monde, l'Euro, la Copa América, la Coupe d'Asie, où est-ce que tu la classerais Alfred?
On ne peut pas faire de comparaison à ce stade, c'est-à-dire que c'est un début qui est prometteur. Par rapport aux CAN antérieures, on n'a pas vu ce genre de jeu. Donc pour moi, elle commence. Pour savoir apprécier, il faut louer le courage des nations qui ont progressé. Celles qu'on juge comme petites nations ont marqué des pas. Laissons voir 2 à 3 CAN devant pour pouvoir porter un grand jugement. Mais la Coupe du Monde reste la Coupe du Monde. La Coupe d'Europe reste la Coupe d'Europe. Le championnat d'Asie, j'ai des réserves. Mais pour l'instant, notons que les Africains sont sur la voie de la progression.
Merci Alfred. Et toi, Cheikh Kenza?
Moi, je pense que vraiment, la CAN, on peut la comparer à la Copa. Je pense que la CAN, elle est nettement meilleure que la Copa. Qu'on le dise ou pas, la CAN, c'est une compétition. Quand tu viens, tu n'es jamais sûr de la gagner. Pourtant, la Copa, quand on regarde les stats, on voit qu'une équipe d'Uruguay qui a plus de 15 titres. On voit aussi l'Argentine qui a plus de 15 titres. Après, il y a le Brésil. Mais quand tu regardes en CAN, il y a des équipes qui ont gagné la CAN. Et moi, je pense que la CAN, des 25 dernières années, des 20 dernières années même, des années 2000 jusqu'à maintenant, elle est nettement meilleure que la Copa. La Copa, déjà, c'est des équipes qu'on connaît. Donc, il n'y a pas vraiment...
Merci, Cheikh Kenza. Et Amadou, c'est parti.
Ouais, en revenant à ce que Wesley disait chez Kenza, ouais, la Copa América est surcotée. En plus, c'est à des heures, bon, peut-être 2 heures du matin, on n'a pas le temps de voir. Ils font des fautes pendant tout le match. Et c'est vrai que l'Afrique, le problème, c'est que c'est toujours les dates. Un jour, c'est en janvier, un jour, c'est en juin. Et les joueurs s'économisent. Mais là, en tout cas, on a le sentiment que cette année-là, on a vu le vrai potentiel. D'habitude, on dit que c'est des équipes de Ligue 2. Là, on a vu des vrais potentiels, des super buts. Et en Afrique, on ne sait jamais qui va gagner à la fin. On a Copa América, c'est soit Brésil, soit Argentine.
Merci Amadou pour cette réflexion. Et toi, Ibrahima?
J'ai pas eu le temps de dire.
Moi, je pense tout simplement qu'on ne peut pas réellement comparer. L'Afrique, c'est l'Afrique, l'Europe, c'est l'Europe. Les conditions déjà ne sont pas les mêmes. Maintenant, ce qui est à remarquer et à souligner sur cette compétition-là, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes en fait. On a l'impression qu'il y a des équipes qui ont énormément progressé. On voit aujourd'hui avec le Cap-Vert, la Mauritanie, ces équipes-là, elles regardent des équipes avec plusieurs étoiles sur le maillot, dans les yeux, et ça fait plaisir à voir. Mais c'est sûr que le continent africain, il est sur la progression. Oui, il progresse tout simplement ces dernières années. Et maintenant, on va voir ce qui va se passer. Mais je suis assez surpris, moi, personnellement.
Merci. En tout cas, du moins, on peut rappeler hein, que la CAN est la compétition, la deuxième la plus regardée au monde après la Coupe du Monde. Hein. Après la Coupe du Monde, c'est la CAN. Hein. Elle est même plus regardée que l'Euro et que la Copa América. Voilà, je tenais à le préciser. En tout cas, on va vous remercier. On va revenir juste après pour débriefer sur le match du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci à vous, mes chers consultants et mes chers confrères. Et on se revoit très bientôt. À très vite. Bonne soirée à vous. Merci Jason.
Merci à toi. Tu m'as créé pour le pays.
Yeah.